Bonsoir à tous, merci de votre présence à l'Espace Mendès France. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Persuit, qui est donc chargé de mission environnement au Centre régional de promotion de la forêt.
De la propriété forestière.
De la propriété forestière, pardon, en Poitou-Charentes. Voilà, c'est bon, c'est dit. Et donc, la chargé de schiste. Et donc, il va faire une conférence sur la place de la biodiversité dans les forêts. Et donc, c'est dans le cadre de l'exposition qui se termine prochainement sur la biodiversité, donc qui est présentée à l'Espace Mendès France jusqu'au 28 novembre. Donc, si vous ne l'avez pas encore visité, il vous reste encore quelques jours. Voilà. Donc, je laisse la parole à M. Persuit. Ensuite, je pense que vous pourrez poser des questions. Voilà, le jeu habituel. Merci.
Merci. Merci d'être venu tard ce soir. On va essayer de finir un petit peu avant minuit, on m'a dit. Donc on va essayer de caler un petit peu dans les délais. Je suis très content et je remercie l'Espace Mendès France de nous accueillir. C'est vrai que les forestiers sortent relativement peu, peut-être trop peu de leur forêt d'ailleurs, pour parler de ce qu'ils font. Et c'est vrai que les centres régionaux à la propriété forestière sont très peu connus. Et pourtant, ils s'occupent sur Poitou-Charentes de 92% des forêts. Les forêts privées en France, si on lisse le chiffre au niveau national, c'est 70% des forêts qui sont privées. Donc quand on parle forêt, on pense toujours ONF. Mais à côté de l'ONF, il y a d'autres forestiers et d'autres types de propriétaires qui travaillent dans ce domaine-là. Alors j'ai laissé, vous m'en pardonnerez, le sous-titre Festival international de géographie, mais c'est une conférence que j'étais présentée à Saint-Dié dans les Vosges il n'y a pas longtemps, puisque cette année, c'était le sujet du festival de géographie, c'était la forêt. Qu'ils avaient invité comme pays la Russie. Alors, c'était d'autant plus d'actualité que les forêts russes ont brûlé cette année et que ça donnait lieu à tout un tas de débats qui n'étaient pas inintéressants. Alors moi, je travaille dans ce centre-là en essayant de tenir le grand écart, je ne sais pas comment il faut appeler ça, entre la production de bois, qui est le plus écologique des matériaux, comme chacun le sait, et la préservation du milieu naturel d'où provient le bois. Sachant que une forêt n'est pas une simple société d'arbres, on ne peut pas la résumer à la simple dimension des éléments dominants que sont les grandes essences, les chênes, les hêtres, etc. Il y a bien autre chose, on va essayer de le voir ensemble, et surtout à partir du moment où on attend de la forêt une certaine utilité, une certaine production, on va voir comment on peut concilier les aspects de protection de l'environnement, protection des écosystèmes, compréhension de l'écosystème, parce qu'on en apprend tous les jours aussi dans ce monde-là. C'est pas un sujet qui fait l'objet d'un consensus global. Il y a des gros débats dans le monde forestier à l'heure actuelle. On verra tout à l'heure les quelques menaces qui me semblent devoir être prises en compte si on veut arriver que les forêts continuent d'exister et de se bien porter. Alors, excusez-moi aussi, de temps en temps, à l'écran, la couleur du texte n'était pas très facile à voir. Alors, on va parler de naturalité, on va parler de biodiversité. J'essaye de distinguer un petit peu les deux choses. La biodiversité, c'est facile à comprendre, diversité du monde vivant. On verra tout à l'heure d'où ça vient, ce mot-là. Bon, diversité du monde vivant au niveau des écosystèmes, donc c'est la diversité écosystémique, la diversité au niveau des gènes, diversité génétique, la diversité au niveau des espèces, alors qu'elles soient intraspécifiques à l'intérieur d'une espèce. À l'intérieur de l'espèce humaine, on est tous différents. On en a un exemple ce soir. Et puis, diversité interspécifique, diversité entre les espèces. Donc finalement, la biodiversité, ça recouvre des domaines extrêmement vastes, mais c'est quelque chose de relativement simple et facile à comprendre. La naturalité, c'est quelque chose qui fait plus appel à des... qui fait appel à des notions scientifiques, mais aussi à des aspects un petit peu philosophiques des choses. J'ai envie de traduire ça, moi, par un mot, même si tout le monde n'est pas d'accord avec la définition, avec le mot américain « wilderness », la vie sauvage, la naturalité d'une forêt, c'est, par exemple, ou une forêt naturelle, c'est une forêt qu'on laisse à elle-même, dans laquelle on n'intervient plus du tout. Donc la naturalité, c'est la capacité que l'on laisse à la nature de s'exprimer, de vivre par elle-même sans intervention humaine. Et vous allez voir que s'il est facile peut-être de conserver certains éléments de biodiversité dans les forêts gérées, c'est un petit peu plus compliqué d'introduire ou de conserver une certaine part de naturalité dans les forêts gérées. C'est pas tout à fait le même niveau d'analyse ni d'importance. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types aussi, de la même façon qu'il y a plusieurs types de biodiversité, il y a plusieurs types de naturalité. Alors, je vous passe le détail, hein, sinon on y est encore donc largement après minuit. Certains parlent de subnaturalité. Existe-t-il encore quelque part sur cette planète des endroits où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds ? Même en forêt vierge tropicale, en Amazonie, on sait que la forêt amazonienne est occupée depuis des milliers d'années par des peuplades amérindiennes, et que l'on voit dans cette forêt des traces de l'occupation humaine par la présence d'un certain nombre de plantes, notamment d'un certain nombre d'arbres qui ont été cultivés, utilisés, etc. On a d'ailleurs la meilleure, une preuve évidente que, avec un minimum d'intelligence, l'homme pourrait vivre pendant très très longtemps dans un écosystème sans le détruire. C'est ce qu'ont fait les Amérindiens. Mais donc des forêts véritablement vierges, je ne sais pas s'il en existe encore, il y a de grosses discussions à l'heure actuelle, sauf peut-être sur certains niveaux de forêts de haute altitude, dans des endroits où vraiment le climat est totalement inhospitalier, etc. Peut-être qu'il subsiste encore quelques lambeaux de forêts naturelles, mais ça reste un petit peu difficile à trouver. Donc ça, c'est quelque chose que les forestiers commencent à peine un petit peu à voir. Alors, avant d'aller plus loin, effectivement, il y a quelques vérités qui méritent d'être remises en cause. Les forestiers, pendant extrêmement longtemps, ont affirmé que la forêt avait besoin de l'homme pour bien se porter. S'il n'y avait pas de forestiers, il n'y a pas de forêt en bon état, il n'y a pas de forêt qui se porte bien, c'est des forêts hostiles, etc., malades. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On a dit des bêtises pendant très très longtemps, et c'est un forestier qui vous le dit. Bon, je suis à la fois forestier et naturaliste, donc de temps en temps je change de casquette, mais la forêt a jamais eu besoin de l'homme pour bien se porter. Jamais. C'est plutôt l'homme qui a besoin de la forêt pour mieux se porter. C'est tout à fait différent. Imaginons des forêts de grande superficie qu'on laisse à elles-mêmes. Évidemment, le paysage va changer. Évidemment, on ne va pas avoir le même aspect pendant un certain moment d'années. Les choses vont bouger au niveau des espèces animales et végétales. Mais la forêt se portera très, très bien. Donc, première chose, ça, c'est aussi un petit peu une espèce de révolution culturelle dans le monde forestier. C'est d'accepter que la forêt n'a pas besoin de nous. C'est exactement le contraire. Donc, à partir du moment où nous avons besoin de la forêt, parce que pour respirer, pour nous balader, pour avoir du bois, puisque c'est plus écologique des matériaux, c'est vrai. C'est si je dois citer un matériau dans le monde qui est vraiment écologique, c'est le bois. J'en connais pas d'autres à ce niveau-là. À partir du moment où on a besoin de la forêt, eh bien, on a inventé ce qu'on appelle la sylviculture, la culture de la sylve, hein, du vieux mot latin sylva. Sachant aussi qu'il y a plusieurs formes de sylviculture. Et on va essayer d'en parler ensemble et de l'évoquer. Il y a des sylvicultures qui sont extrêmement douces. Par exemple, celle qui est promue par une association de forestiers qui s'appelle ProSylva, sylviculture proche de la nature. Ça veut dire que quand vous allez dans une forêt gérée selon les normes de ProSylva, vous avez l'impression d'être dans une forêt où on n'a pratiquement jamais rien fait. Parce que vous avez des arbres de toutes dimensions, de tous âges, de tout diamètre sur une même parcelle. On a l'impression d'un couvert forestier qui existe depuis très très longtemps. Hein, ça ne se voit pas pratiquement l'intervention humaine. On fait la sylviculture de gros arbres qu'on va exploiter de temps en temps, ça et là, en servant de layon. On va essayer de faire différemment que dans la forêt tropicale, évidemment. Mais il n'y a jamais de coupe rase. Donc on n'a pas l'impression d'une forêt gérée ou exploitée. Hein, donc ça, c'est une sylviculture très très douce, parfaitement économique, parfaitement rentable pour le propriétaire, malgré ce que l'on pourrait penser. Et puis à côté, il y a des sylvicultures très dures, c'est comme partout, qu'on pourrait appeler de la liniculture, c'est-à-dire on ne cultive plus la forêt, on cultive du bois. Là, la forêt, c'est plus des arbres de tous âges, de tout diamètre, etc. C'est sur une même parcelle, des arbres qui ont tous la même hauteur, le même diamètre, le même volume, etc. Et pour la personne qui fait de la liniculture, le but premier, c'est vraiment de faire un maximum de mètres cubes à l'hectare. Comme on fait du quintaux de blé à l'hectare, etc. Hein, on passe sous silence les aspects biodiversité et naturalité dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce sont des choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa propriété, mais ça n'a pas les mêmes conséquences sur le milieu et sur l'écosystème. Hein. Et on verra que des forêts où on se livre uniquement à la liniculture en ignorant la biodiversité et naturalité, c'est peut-être des forêts qui peuvent être productives pendant un certain nombre d'années, mais certainement pas très longtemps, parce que ce sont des forêts fragiles, hein, qui sont susceptibles d'être malades, attaquées par un certain nombre de parasites, etc. On va voir pourquoi. Et donc la quatrième chose aussi importante, c'est donc la forêt, ce sont des arbres, mais à côté des arbres, des milieux naturels qu'on appelle maintenant des milieux naturels associés. Alors, ils n'ont pas signé de contrat, mais des milieux qui sont dont la composante principale n'est pas des arbres, mais des milieux qu'on va trouver en forêt et dont le fonctionnement est indispensable à l'équilibre biologique global des dites forêts. Donc, vous aurez les landes, les mares, les pelouses, les ravins, les ruisseaux, les étangs, etc. Tous les milieux qui ne sont pas composés d'arbres, mais dont la forêt a besoin. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des choses qui vous posent problème. Donc chauve-souris et boucheron, même combat. Ça aussi, c'est quelque... Bon, quand on veut essayer de convaincre des forestiers ou des propriétaires de l'intérêt de la biodiversité et de la naturalité, il faut essayer de trouver un langage qu'ils puissent comprendre et qu'ils acceptent. Si je dis tout de suite à un propriétaire... Bah écoutez, vous avez des papillons, des oiseaux dans votre forêt, ça serait bien que vous fassiez vraiment plus grand chose pendant longtemps. Il va me dire, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai envie de tirer un revenu de ma forêt. Voilà, il faut essayer d'expliquer un petit peu les choses. Chauve-souris et bûcherons, pourquoi dans les forêts maintenant, ce que l'on recommande, c'est par exemple de laisser des arbres morts et à cavité. Les arbres qu'on s'est dépêchés, il y a encore quelques années, d'éliminer de la forêt, puisqu'un arbre mort, un arbre à cavité, ça ne vaut plus rien, économiquement parlant. Par contre, c'est extrêmement intéressant sur le plan de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que ça va abriter des insectes, dits xylophages qui se nourrissent de bois mort, saproxyliques qui se nourrissent de bois en décomposition, etc. Ça va abriter toute la grande famille des pics, les sittelles ou les oiseaux dits cavicoles, et non pas cavernicoles, comme on dit souvent. Cavernicole, ça veut dire qu'il vit dans des cavernes, cavicole, qu'il vit dans des cavités. Donc ça accueille les pics, ça accueille les chauves-souris. Et en quoi la chauve-souris intéresse le propriétaire de forêt ? Eh bien, une chauve-souris qui va faire pour les plus grosses environ 40 grammes, elle va consommer plusieurs kilos d'insectes dans une saison d'activité, entre le moment où elle sort de son abri hivernal et le moment où elle va y retourner. Et 90% des insectes dont se nourrissent les chauves-souris sont des insectes prédateurs du feuillage. Autrement dit, si le propriétaire laisse des arbres morts et à cavité qui permet d'accueillir ou de maintenir des populations viables de chauves-souris, il contribue à défendre sa forêt contre un certain nombre de parasites. C'est la même chose si je disais papillons et bûcherons, même combat. Si je dis au propriétaire faut laisser des peupliers trembler dans votre forêt qui n'ont aucune valeur économique mais qui ont une grande valeur biologique, bon, il me regarde d'une manière un petit peu curieuse. Si je lui explique que du peuplier tremble dépend de la survie de 4 ou 5 espèces de papillons, il va me dire, bon, bah, moi, mon souci, c'est pas forcément les papillons. Hein, ce qui m'intéresse, c'est de faire du mètre cube et puis d'avoir un revenu économique de ma forêt. Et alors là, je lui demande, vous avez raison, vous avez parfaitement raison, est-ce que vous avez des ruches en forêt ? La plupart du temps, il va me dire non. Et je lui dis, mais alors, quels sont les insectes qui pollinisent vos arbres forestiers, y compris les arbres de production ? Ça va être essentiellement les papillons. S'il n'y a pas d'abeilles, c'est les papillons. Vous n'avez pas de papillons dans votre forêt parce que vous allez éliminer toutes les essences qui peuvent accueillir les chenilles ou qui sont les sources de nourriture préférentielles pour un certain nombre d'espèces. Vous perdez une bonne partie de la pollinisation de vos forêts, donc vous aurez moins de fruits, donc vous aurez moins de possibilités de faire la régénération naturelle parce qu'il n'y aura pas de glands ou pas beaucoup, il n'y aura pas de faines ou pas beaucoup, hein, les fruits du hêtre, etc. Donc on a intérêt à avoir des papillons en forêt comme on a intérêt à avoir des chauves-souris. Ça aussi, c'est essayer de trouver la bonne utilité de l'animal, etc. Mais en même temps, ça permet de faire comprendre la nécessité de prendre en compte la biodiversité et la naturalité. Pardon. Alors ça, par exemple, c'est une photo qui est prise dans une réserve naturelle intégrale, sans exploitation, depuis quelques dizaines d'années seulement, parce qu'en France, on est très en retard sur les réserves intégrales. C'est une photo qui a été prise en Alsace. Si vous avez l'occasion d'aller voir la réserve naturelle du Grand Ventron, je vous la recommande parce qu'elle est très très belle. Une hêtraie sapinière qui est absolument magnifique. Donc si on essaye de définir ou de rappeler un petit peu, vous allez voir que je vais m'écarter un tout petit peu du domaine scientifique pour parler un petit peu presque de poésie. Bon, pour moi, un bon forestier, c'est un économiste. D'accord ? Quand même pas oublier, le métier principal du forestier, c'est de produire du bois. Personne, on est d'accord là-dessus. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. Mais en même temps, si on veut être capable d'appréhender tous ces aspects de biodiversité et de naturalité et véritablement de vivre la forêt dans toutes ses dimensions, il faut savoir aussi être touché ou par les aspects d'émotions esthétiques, de beauté, de poésie que dégage une forêt évidemment, naturelle, une forêt naturelle sera beaucoup plus sujette à la possibilité de laisser s'exprimer un certain nombre de choses qu'une forêt où on fait des arbres comme on fait du chou-fleur ou des petits pois, quoi. Hein. Donc une forêt naturelle, je rappelle simplement là ce que c'est une forêt qui est laissée à elle-même. Dans une forêt naturelle, par exemple, si on prend les hêtraies d'Europe centrale, on peut avoir pratiquement 10 000 espèces d'insectes. Alors, ce sont des forêts de grande superficie. Hein. Ce n'est pas une forêt de 50 hectares. C'est une forêt de 8 000, 10 000 hectares. Il y a des forêts comme ça sur les Carpates roumaines. C'est gigantesque. Vous avez des milliers d'espèces animales et végétales dans ces forêts-là, qui sont des forêts naturelles, encore une fois, puisque les Roumains sont largement en avance pour nous, pour la création de réserves d'importance là-dessus. Donc, vous voyez que le texte, ce n'est pas un texte scientifique. Hein, c'est un texte un petit peu littéraire et poétique, parce que ça fait partie pour moi de l'appréhension nécessaire des peuplements forestiers. On oublierait beaucoup de choses si on ne pensait pas à ces choses-là. Alors ça, c'est une photo de forêt. Alors quand je dis ça aussi, de temps en temps, dans un certain nombre de milieux, on me dit, ben, monsieur, c'est plein de vide, là, votre photo, elle est où, la forêt ? Ben, la forêt, elle est là. Hein. Donc c'est tout simplement une clairière avec... une chose extrêmement intéressante, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être poète pour apprécier ça, il suffit d'être gourmand, parce que ce sont des myrtilles. Hein. Des landes à myrtilles comme ça, avec des sorbiers, qui sont ces arbres-là, avec leurs petites baies, on devine un petit peu le sorbier, au milieu d'une haie très sapinière avec quelques épicéas qu'on voit là dans les arbres dominants. C'est un milieu extraordinairement riche sur le plan de la biodiversité, puisque c'est par exemple là qu'on va trouver le grand tétras. Ou la gélinotte des bois. Alors pour les gens qui font de l'ornithologie, qui s'intéressent à la biodiversité, c'est des espèces prestigieuses en danger d'extinction qu'on risque fort de ne plus voir du tout demain en France. Enfin demain ou dans 10 ans, je ne sais pas. Mais dans les Vosges, c'est pratiquement disparu, grand tétras, malheureusement. Donc là, c'est un des derniers endroits où on peut encore, en allant en forêt, avoir une chance de le voir. Sinon, la dernière population à peu près viable, c'est dans les Pyrénées, mais on les compte par quelques dizaines, hein, le grand tétras. Ben, imaginons que les forestiers, il y a quelques années encore, quand on ne faisait pas de cours d'écologie, quand on n'avait pas parlé d'écologie ou de biodiversité ou de naturalité, un milieu comme ça, qu'est-ce qu'il essayait de faire ? Le forestier dit responsable et dynamique, ben terrain acide, etc. Bon, ben, je vais labourer un petit peu, j'élimine la myrtille, je passe mon gyrobroyeur et je plante. Du résineux. Hein. On est sur un sol acide, pauvre, donc évidemment, je ne vais pas mettre du chêne ou quoi que ce soit. Mais je vais planter, je vais valoriser cet espace-là. Il va se dépêcher de boucher le trou. Hein. La nature ayant horreur du monde, du vide, le forestier avait encore plus horreur du vide que la nature. Bon, heureusement, on commence à prendre conscience du fait que le grand tétras, la gélinotte et toutes les espèces animales qui vivent dans ces milieux-là, ils vont aussi aller en forêt et leur fonctionnement, leur rôle écologique, il n'est pas que sur cette clairière-là, il va s'exercer sur l'ensemble du massif. Autrement dit, ça fait partie de la forêt. Encore une fois, la forêt, c'est pas que des arbres, c'est des milieux aussi vides. C'est une des grandes leçons de l'écologie, d'apprendre que la notion de vide recouvre des choses extrêmement pleines, finalement. Voilà, c'est des forêts naturelles, c'est aussi des forêts où on va trouver... une quantité impressionnante, c'est d'ailleurs un des grands indicateurs, comment vous savez que vous êtes dans une forêt naturelle, vous trouvez une quantité hallucinante de champignons, de mousses et de lichens. Et pas seulement des champignons qu'on mange, hein, toutes sortes de champignons. Il faut savoir aussi d'ailleurs que dans une forêt où vous avez gardé une certaine dose de naturalité et de biodiversité, vous favorisez les champignons et que sans champignons, si vous n'aviez pas les champignons, si vous interveniez avec des méthodes un petit peu brutales de sylviculture, si vous faites des grandes coupes rases avec une température au sol qui en était détruit un certain nombre de micro-organismes, etc., si vous perdez les champignons mycorhiziens dans le sol, vous perdez pratiquement 90% des essences forestières. Il n'y a plus d'arbres s'il n'y a plus de champignons de mycorhiziens dans le sol. Parce que vous avez des associations qu'on appelle symbiotiques, hein, j'apprendrai pas ça, beaucoup de gens le savent, entre le champignon et la racine. Alors on parle d'endomycorhize, où le champignon rentre à l'intérieur de la racine, ou d'ectomycorhize, où le champignon fait un manchon autour de la racine, et il y a une association à bénéfice réciproque entre l'arbre et le champignon qui se nourrissent l'un et l'autre. Il n'y a plus de champignons mycorhiziens parce que vous avez fait des coupes rases, parce que vous avez exposé le sol au soleil, parce que ceci, cela. Vos arbres dépérissent très rapidement. Donc c'est une bonne illustration du fait que là, c'est le géant qui a besoin du nain. Si on peut aussi faire la philosophie avec ce genre de constatation. Donc ça, beaucoup de champignons aussi. Donc voilà encore une autre photo qui est prise dans une forêt naturelle abandonnée, entre guillemets. On a prétendu pendant très longtemps que c'était aussi impénétrable. Bah, je suis désolé, c'est parfaitement pénétrable, on le voit là. Hein, c'est pas une photo truquée, on peut parfaitement aller se balader, on peut s'asseoir, on peut pique-niquer si on veut. Hein, c'est pas du tout hostile. Regardez les descriptions que faisaient les romantiques au XIXe siècle des forêts sauvages, un petit peu des montagnes. On avait vraiment l'impression d'entrer dans un endroit où on courait des dangers, enfin bon, épouvantables, etc. Ben, c'est pas vrai. Et les forestiers ont prétendu ça pendant longtemps. Hein. Dans les documents ou dans les conférences qu'on pouvait faire encore il y a quelques années, on vous disait qu'il y a du bois mort partout, on se casse la figure, c'est dangereux, etc. Bon, évidemment, faut lever le pied de temps en temps. C'est pas aussi plat que le bois de Vincennes, mais enfin bon. On se foule les pieds aussi sur les trottoirs des grandes villes. Hein, pas besoin d'aller en forêt. Alors, c'est vrai que dans ce type de forêt-là, la justification qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut demander, par exemple, à des propriétaires forestiers de totalement laisser tomber la sylviculture et de consacrer des milliers d'hectares à la simple expression de la naturalité, c'est-à-dire à la simple expression de la vie naturelle? C'est un peu délicat. Donc, ça relèvera plus des grandes forêts domaniales et d'une politique d'État, via des réserves naturelles, via des parcs nationaux, etc. Et vous savez que depuis quelques années, l'Office national des forêts, qui ne gère que 30%, je vais le faire exprès, des forêts françaises, a lancé un programme de grande réserve intégrale. Et là, avec le groupe forêt du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, pardonnez-moi, c'est très très long, on est en train de travailler à la mise au point d'un grand parc forestier national, qui sera le premier en France, qui va être créé en Bourgogne, à la limite entre la Bourgogne et le Loiret, de 10 000 hectares, dans lequel on aura 4 000 hectares en évolution libre. On ne touchera plus à rien, sauf qu'on fera des études scientifiques et on regardera comment les choses évoluent. Et vous savez qu'on a une grande réserve intégrale en Deux-Sèvres, en Poitou-Charentes, qui est la forêt de Chizé, sur 2 400 hectares. Donc là, c'est des forêts d'État. Donc là, c'est facile. Ça serait plus compliqué si c'était de la forêt privée, bien sûr. Hein ? Alors, pour faire scientifique, simplement quelques petits chiffres, effectivement. On a 68 espèces d'oiseaux qui dépendent de la forêt, qui ne vivent qu'en forêt, qui sont des espèces spécialisées, spécialistes un petit peu, de ce monde-là. 40% de ces 68 espèces-là dépendent des cavités d'arbres. Même si on laissait la forêt, on aurait toujours un certain nombre d'espèces d'oiseaux, mais on en perdrait quand même un bon nombre si on éliminait tous les vieux arbres à cavités. Et tous ces oiseaux-là ont un rôle essentiel, par exemple, une mésange charbonnière pour élever sa nichée doit consommer entre 6 et 8 000 chenilles par an. Donc il y a des gens un petit peu curieux qui passent leur temps à compter des trucs pas possibles comme ça. Une chenille, quand vous dites un appétit d'oiseau, hein, ça voudrait dire que vous mangeriez plus que votre propre poids chaque jour. Donc ça poserait quelques problèmes. Donc ça mange énormément un oiseau. Hein. Donc c'est extrêmement utile. Voilà. Et puis les champignons, les mousses et les lichens, ils vont jouer un autre rôle. Ils vont nourrir une certaine faune. Ils vont donc les champignons mycorhiziens vivre en symbiose avec les racines des arbres. Mais les mousses et les lichens, par exemple, ça a quel rôle? Ben, c'est un rôle fantastique d'éponge. Une forêt, c'est une éponge vivante, une énorme éponge. La forêt, en hiver, elle va stocker des quantités phénoménales d'eau et elle va le redistribuer au printemps et en été quand il pleut beaucoup moins. Et on constate à chaque fois que lorsqu'une forêt disparaît ou diminue en superficie, il y a aussi une certaine modification des microclimats locaux. Puisqu'une forêt, c'est un être vivant, ça respire, ça transpire, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Au-dessus d'une forêt, il y a dégagement de vapeur d'eau, formation de nuages, pluie, etc. Donc la forêt participe au cycle de l'eau. Et les mousses et les lichens donc, jouent ce rôle de réservoir et de stockage. Alors, ça, c'est un langage qu'on peut avoir, le langage de la biodiversité et de naturalité. On peut l'avoir sous des formes un petit peu... facile à comprendre. On peut aussi parler de ça d'une manière extrêmement compliquée. Donc je vais vous faire voir une formule, d'ailleurs à laquelle je comprends strictement rien, puisque moi j'ai toujours été nul en maths et en physique. Bon, la biodiversité et la naturalité, ça se mesure. Il y a des indicateurs. Hein. Donc par exemple, dans les forêts privées, on essaye de développer en ce moment ce qu'on appelle l'IBP, l'indice de biodiversité potentielle. Pour expliquer tout ça au forestier lambda qui a hérité de sa forêt, qui n'a pas fait de cours d'écologie, c'est pas de sa faute. Tout le monde ne peut pas être formé à ces métiers-là. Bon, pour expliquer ça de manière aussi simple, on a essayé de trouver des indicateurs, une dizaine, par exemple. Il y a des vieux arbres où il n'y en a pas. Il y a des rochers où il n'y en a pas. Il y a des milieux associés, des landes, des clairières, des pelouses, comme on a vu tout à l'heure, où il n'y en a pas. Il y a beaucoup de bois mort à terre où il n'y en a pas, etc. On note ça sur une parcelle, on se détermine une parcelle d'à peu près un hectare, on note tous ces éléments-là et on donne une note. S'il n'y a rien du tout, on donne 1, s'il y en a beaucoup, on donne 3, etc. À la fin de la visite de la parcelle, avec la note, si on compare ça à un barème, on sait si la parcelle est biodiversifiée ou pas. Et dans les indicateurs, il y a des indicateurs qui dépendent de la gestion, Donc la présence de grands et vieux arbres, on en est directement responsable. On peut favoriser les vieux arbres ou on peut les éliminer. Donc ça dépend vraiment de la gestion humaine. Par contre, il y a des facteurs qui dépendent absolument pas de nous. L'existence ou non de rochers. On va pas aller mettre des rochers ou les emmener de... Donc ça ne dépend pas. Donc selon, les notes sont différentes selon que les indicateurs dépendent de nous ou pas. Enfin bon, je vous passe le détail, mais on a réussi à trouver des grands indicateurs comme ça, facilement observables dans une forêt par Monsieur Tout-le-Monde, et qui permet de savoir si sa forêt, elle est en bon état biologique ou pas. Donc on essaye de progresser dans ce domaine-là, mais vous avez des gens qui sont quand même beaucoup plus compliqués. Voilà, par exemple, cette formule-là, c'est une formule authentique, hein, c'est pas pipeau pour la conférence de ce soir. Alors, méthode utilisant un classificateur bayésien naïf, je vous passe les détails, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai vu ça dans une étude scientifique extrêmement sérieuse. Bon, la méthode permet de prédire si une espèce d'oiseau est présente ou non à partir de l'existence de microhabitats. Alors, en forêt, c'est quoi un microhabitat? Bah, c'est la fameuse cavité dans un tronc d'arbre, c'est un microhabitat. Une cavité en bas d'un gros arbre avec un petit peu d'eau, on appelle ça un dendrothèlme, dans le langage scientifique. On y trouve des espèces de lichens ou de champignons ou d'insectes tout à fait particuliers. Ça constitue un microhabitat. Voilà, cette formule-là permet à un certain nombre de gens beaucoup plus intelligents que vous et moi de savoir s'il y aura une espèce d'oiseau ou pas. Bon, vous voyez qu'on peut, ça peut être extrêmement compliqué, hein, la biodiversité. Mais là, personne n'y comprend rien. À part les gens qui sont des scientifiques beaucoup plus pointus que nous. Donc on essaye en général d'éviter ce genre de choses, parce que sinon... Alors on va se retenir à des choses effectivement beaucoup plus simples. Est-ce que dans votre parcelle, vous avez des gros arbres morts, comme celui qu'on voit au milieu de la diapositive là, ou pas? Pourquoi? Parce que le bois mort en particulier est une des choses les plus importantes pour qualifier la biodiversité des forêts. Dans des forêts vierges comme celles que vous avez vues tout à l'heure, enfin vierges, non exploitées, on peut trouver de 40 à 200 mètres cubes de bois mort à l'hectare sous toutes ses formes, hein, debout, couché, etc. Donc c'est énorme. Alors de temps en temps, les propriétaires me disent « Vous êtes bien gentil, mais moi, la tempête de fin 99, j'en ai assez du bois mort chez moi, j'ai pas besoin d'en conserver. » Mais là, j'essaie d'expliquer que le bois mort subi à l'occasion d'un accident, c'est pas la même chose que le bois mort qu'on choisit, c'est-à-dire parce que du bois mort qu'on conserve, parce qu'on sait que c'est utile. S'il y a du bois mort, il y a des insectes. S'il y a des insectes, il y a des oiseaux. S'il y a des oiseaux, il y a capacité de freiner des invasions parasitaires, etc. Bon, à l'heure actuelle, on estime, là, le chiffre, j'exagère peut-être un petit peu, mais dans les forêts les plus pauvres, ça peut aller à 0,5 ou 1 mètre cube de bois mort à l'hectare. C'est très, très peu. La moyenne nationale, c'est 3 ou 4 mètres cubes bois mort hectare. Les scientifiques disent qu'il faudrait 20 à 25 mètres cubes pour avoir une forêt en bon état biologique équilibrée entre les populations d'insectes utiles et les populations d'insectes des prédateurs. Mais le bois mort en forêt, ça a toujours été aussi quelque chose qui n'existait pas dans la culture forestière. Un propriétaire qui laissait du bois mort, c'était un mauvais gestionnaire. C'était sale. La notion de saleté, c'est quelque chose de très prégnant en forêt. Il y a de la ronce, c'est sale. Il y a du bois mort, c'est sale. En fait, ce sont des éléments extrêmement importants pour la biodiversité. Donc c'est aussi une petite révolution culturelle qu'il faut faire. Le bois mort, dans une forêt de feuillus, n'a jamais posé le moindre danger à la forêt exploitée. Un insecte qui va se nourrir du bois mort, il ne va pas aller s'attaquer aux arbres vivants. Il n'y a pas de danger de contamination. Or, les gens l'ont cru pendant très très longtemps. Donc ils avaient peur de ça, on ne peut pas leur reprocher. On leur avait jamais appris que voilà, ces insectes-là avaient un rôle extrêmement important et n'étaient pas dangereux pour leur peuplement. Donc ça, la notion de saleté, c'est encore quelque chose qui est bien ancré dans l'esprit de beaucoup de gens. De la même que les arbres morts, des arbres comme ça, cassés. Alors dans le langage forestier, on appelle ça un chandelier, la partie qui reste debout. Et puis la partie qui est à terre, hein, c'est le même arbre, on appelle ça des volis. Il y a plein de mots comme ça que chaque discipline aime bien avoir son propre vocabulaire. Bon, des arbres comme ça, encore une fois, il y a quelques années, la consigne, c'était on mettait un coup de tronçonneuse et on l'enlevait parce qu'on se disait aussi, pas seulement les insectes, mais les champignons qui sont là-dessus vont aller aussi s'attaquer et contaminer les peuplements sains d'à côté, ce qui n'est absolument pas le cas, qui n'est jamais le cas. C'est pas dangereux. Et au contraire, cet arbre-là, il va être un garde-manger pour tout un tas d'espèces animales et végétales qui vont aider à conserver la forêt et les peuplements d'à côté en bonne santé. Alors, est-ce que... De quelle manière on peut le comprendre, ça on peut. De quelle manière concrètement on peut prendre en compte cette biodiversité-là dans les forêts gérées, notamment pour les propriétaires privés. L'État, encore une fois, c'est facile. L'État est propriétaire, il a un gestionnaire. En Poitou-Charentes, pour les 370 000 hectares de forêt qu'on a, on a 230 000 propriétaires privés. C'est difficile d'aller rencontrer 230 000 propriétaires privés. Et puis en plus, ils sont tous différents les uns les autres. Hein. La fameuse biodiversité intraspécifique, elle existe chez le propriétaire privé. Donc c'est un petit peu compliqué. Si on lui demande de ne plus du tout avoir de bénéfices économiques, il ne va pas être d'accord. Donc on va essayer de lui expliquer et de lui rappeler un certain nombre de choses qui lui permettront à la fois de produire du bois et d'avoir une forêt en bon état. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des milieux naturels associés, mais on va parler de choses comme aussi le lierre. Le lierre est le meilleur ami de l'arbre. Ah bon ? On a dit le contraire pendant des décennies. Et moi, quand j'étais gamin, c'est aussi ce que me disait mon grand-père. Ben oui, mais mon grand-père, il se trompait, parce qu'on lui avait aussi dit ça, etc., etc. Le lierre n'est pas un parasite, le lierre, il se sert de l'arbre comme support, simplement. C'est pas le gui. Le gui est un ami parasite qui suce la sève des arbres, qui peut faire mourir des arbres un petit peu affaiblis. Le lierre, c'est la crème solaire de l'arbre. Et il ne peut pas aller dans la pharmacie du coin à la prochaine canicule venue. Le lierre, il va servir de manchon tout autour de l'écorce. Et il va éviter des coups de soleil, parce que les arbres, effectivement, attrapent des coups de soleil, surtout les arbres qui ont une écorce mince. Le hêtre, le charme, le merisier, tous les feuillus, les fruitiers précieux en forêt ont des écorces minces, la lisier, le cormier, etc. Le lierre les protège des coups de soleil. Et on a eu quelques propriétaires ces derniers temps, après 2003, qui sont venus nous voir en disant bah voilà, nous, on avait cultivé des merisiers au bord de notre forêt. Quand on les a coupés, l'intérieur est complètement pourri. Donc ils ne savaient pas ce que c'était. C'était ni un champignon, ni une maladie. Bah, c'était des coups de soleil. Tout simplement. Mais ils avaient soigneusement nettoyé leurs parcelles. Hein, il n'y avait plus de ronces, il n'y avait plus de lierre sur les troncs, etc. Moralité, bah, ils avaient perdu une bonne partie de leur production possible. En plus, le lierre, il va accueillir toute la grande famille des turdidés, les grives, les merles, les pigeons, parce que ça donne des baies et qu'à certaines périodes, il n'y a pratiquement plus que ça à boulotter dans les campagnes. Hein, donc ça, en plus, le lierre, il va servir aux oiseaux pour nicher. Il va abriter les araignées. Et les araignées, c'est extrêmement utile dans aussi bien dans les maisons, mais là, c'est un peu plus difficile, que dans les forêts. Donc le lierre est le meilleur ami de l'arbre. On a dit le contraire pendant très, très longtemps. Donc on va essayer d'expliquer ça aux propriétaires, et notamment parce que ça va permettre d'avoir... là, c'est peut-être le seul mot qui serait intéressant à retenir de la soirée, c'est ce mot de résilience. Hein, c'est un mot que j'aime bien, moi, qui rime avec résistance. La résilience, c'est la capacité d'une forêt à se régénérer d'elle-même, tout seul comme une grande, après un accident biologique ou climatique. Après la tempête de fin 99, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pu nettoyer, entre guillemets, comme on a dit pendant très très longtemps, partout. Pas suffisamment d'hommes, pas suffisamment de moyens financiers. Donc il y a des parcelles qui ont été laissées à elles-mêmes, notamment en forêt de Chizé, gérée par l'Office, où il y avait deux parcelles qui, pour eux, étaient un échec. Ils n'avaient pas pu y aller, ils n'avaient pas nettoyé, etc. Il y avait plein de... Bon, et vous y allez maintenant. Donc on est en 2010, 10-11 ans après. Au lieu d'avoir, dans l'étage dominant, vous aviez des hêtres et puis quelques chênes en dessous, donc les hêtres, tout a été foutu en l'air par la tempête, hein, sur Chizé, 4000 hectares, 1200 hectares par terre. Donc ça a été quelque chose de très très impressionnant. Bah, sur cette parcelle où on n'avait rien fait, maintenant vous avez 12 essences d'arbres différentes. Vous avez de l'érable de Montpellier, vous avez du merisier, vous avez de l'alisier, vous avez du cormier, vous avez un peu de hêtres qui subsistent, etc. Personne n'a été planté ça. C'est la nature qui a fait en sorte que ces essences-là ont pu revenir, soit véhiculées par le vent, via les pollens, etc., soit les graines véhiculées bah, pour toute la faune dont on parlait tout à l'heure. Un jet, par exemple, un jet, ça sème à peu près... là aussi, il y a des gens un petit peu curieux qui comptent ces choses-là. On a pu estimer qu'un jet semait 50 000 glands par an. Parce que le jet, c'est comme l'écureuil, ou comme moi de temps en temps, c'est-à-dire on oublie un petit peu les choses qu'on fait, hein, un petit peu distrait. Il va faire des caches, il va mettre des glands de côté pour l'hiver. Et puis comme c'est... Voilà, il en oublie la moitié, ou il en oublie les trois quarts. Donc tout ce qu'il a planqué, tout ce qu'il a enterré, etc., ça va germer. Hein, donc il sème des glands un petit peu partout. C'est pareil pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux, avec d'autres graines, d'autres essences d'arbres. Donc sur Chizé, personne n'avait jamais rien fait. La forêt d'elle-même s'est ressemée. Évidemment, il y avait aussi des banques de graines qui étaient là présentes dans le sol, qui ne pouvaient pas pousser parce que les arbres dominants ne laissaient pas passer la lumière. La tempête est venue, plus de gros arbres, donc la lumière au sol, et les arbres ont pu germer. Donc ça, c'est la résilience, une forêt, la capacité de se régénérer d'elle-même sans personne. En plus, ça ne coûte rien. Pas forcément inintéressant comme argument. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça partout. Il ne s'agit pas de tout laisser faire. Vous imaginez bien que si on avait laissé toutes les forêts, d'abord, c'était dangereux. Pour les hommes, il y a eu des accidents. Et puis ensuite, dans un certain nombre d'endroits, ça posait des problèmes d'incendie. Donc ce n'est pas faisable partout. C'est simplement une illustration du fait que si on a su garder des éléments de biodiversité de naturalité dans la forêt, quand il se passe un gros pépin, la forêt sera mieux capable de se régénérer d'elle-même, quoi, de résister, hein, d'être résiliente. Voilà. Donc le lierre sur le chêne, l'arbre à cavité à côté de l'agrume de qualité, tout ça, ça fait partie des choses à prendre en compte, encore une fois. Alors là aussi, il y a cette photo-là, elle peut illustrer une chose, c'est une hêtraie sapinière dans les Pyrénées. Eh bien, par rapport au problème de résilience, par rapport au problème de changement climatique, dont on pourra dire aussi un mot, une forêt biodiversité ou une forêt biodiversifiée, pardon, ou une forêt où on aura laissé s'exprimer un peu de naturalité dans des endroits divers ou variés, c'est une forêt aussi où on a fait le plein d'essence. On dit aux gens, faites le plein d'essence, même si c'est carburant coûte cher, vous ferez des économies en faisant le plein d'essence. D'ailleurs, d'avoir dans une forêt le maximum d'essences différentes. Les grandes monocultures de résineux ou de feuillus, c'est pas des choses qui peuvent durer très très longtemps. C'est beaucoup trop fragile. Imaginez une grande forêt comme la forêt des Landes. Vous avez une attaque de Matsukokus, qui est une espèce d'insecte qui s'attaque aux pins maritimes. Vous avez des attaques de processionnaires. Vous avez des attaques de Phytophthora, qui est un champignon, ou de Fomes, qui est un champignon aussi, qui s'attaque aux résineux. Tous ces parasites-là sont favorisés par l'augmentation des températures, donc par le changement climatique. Vous imaginez bien des dizaines de milliers d'hectares de forêts composées d'une seule essence. C'est un gigantesque restaurant à ciel ouvert, hein, pour tous les parasites qui traînent. Et comme eux sont boostés par l'augmentation des températures, leurs dégâts sont accentués. Chaque année, on constate dans les forêts de plus en plus de dégâts dus à un certain nombre de choses. L'oïdium, qui est quelque chose de très commun sur le chêne, est beaucoup plus agressif depuis quelques années parce que le champignon qui propage cette maladie-là est favorisé par le réchauffement des températures. Donc si vous n'avez que des forêts de chêne, aussi, c'est fragile. Donc on a intérêt à avoir le maximum d'essences différentes sur une même parcelle. C'est plus compliqué à gérer. Parce que c'est beaucoup plus d'observation, parce que vous avez des arbres qui se font concurrence. Le chêne, c'est une essence de lumière, le hêtre, c'est une essence d'ombre, bon, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais en même temps, c'est beaucoup plus résilient, c'est beaucoup plus capable de tenir le coup pendant longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important à dire. En même temps, quand vous avez un maximum d'essence, vous avez ce qu'on appelle des strates de végétation différentes. Hein, idéalement, une forêt, vous devriez avoir une strate herbacée, l'herbe, une strate arbustive, une strate arborescente, donc différents niveaux, hauteur de végétation. Plus vous avez de hauteur de végétation différente dans une forêt, plus vous avez de niches écologiques disponibles pour un certain nombre d'espèces animales et végétales. Dans une forêt, une seule essence d'arbre, imaginons c'est une feuilletée régulière, sur une parcelle où les arbres ont tous 60 ans, 80 ans, et font 30 mètres de haut, il n'y a plus guère d'endroit pour les oiseaux pour nicher. Pour les petits mammifères, il n'y a plus d'endroit pour aller se cacher. Donc c'est des forêts qui sont relativement pauvres en matière de biodiversité. Donc ça aussi, bois mort à terre ou la conservation de chandelles comme il y a ici à droite, ça s'est pris en forêt de Chizé. Eh bien encore une fois, il y a quelques temps, le forestier se serait dépêché de mettre un coup de tronçonneuse. Ça, c'est un arbre qui résulte de la tempête de fin 99. On l'a laissé en place parce que ça va servir de perchoir pour des oiseaux, parce que ça va abriquer des pics, des chauves-souris, etc. Ça ne gêne pas du tout l'exploitation économique de la forêt d'à côté. Pas du tout. On essaye simplement d'éviter de le conserver au bord d'un chemin pour que ça ne tombe pas sur la tête de quelqu'un. Donc, il y a les aspects de sécurité des personnes, évidemment, qui sont à prendre en compte. Hein. Voilà. Présence de bois mort et production de bois sain, c'est parfaitement compatible. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut expliquer pendant longtemps parce que c'est contraire à ce qu'on a pu penser, lire, écrire, etc. pendant très très longtemps. Si vous regardez les vieux manuels de sylviculture, c'est plein de choses assez savoureuses hein, dans ce domaine-là. Voilà. Et là, les champignons, alors là, les spécialistes un petit peu des champignons vous trouvent leur bonheur dans ce genre de forêt. Alors voilà, il y a quelque chose extrêmement simple hein, dans une forêt gérée que l'on peut prendre en compte. Hein. Encore une fois, on fait de la production économique, mais on va conserver, par exemple, des îlots de vieillissement ou de sénescence si la dimension de la forêt le prévoit. Alors c'est quoi ? Un îlot de vieillissement ? Au lieu d'exploiter un groupe d'arbres, des chênes par exemple, de le couper à 120 ans, on va pousser son âge d'exploitation à 200 ans ou 240. On va doubler l'âge d'exploitation. On l'appelle un îlot de vieillissement. Quel est l'intérêt de ça ? Bon, on va avoir des arbres beaucoup plus gros. Donc pour le propriétaire, ça sera des arbres qui voudront beaucoup plus cher. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un intérêt économique aussi là-dessus. Mais en même temps, on va avoir dans ces arbres-là peut-être des cavités qui vont apparaître et un certain nombre de branches mortes apparaître. Et ces branches mortes-là, ça va être le biotope de la citelle, du gobe-mouche, etc. Donc de tout un tas d'espèces d'oiseaux qui ont besoin de ce type d'habitat pour s'alimenter. Donc vous jouez sur les deux tableaux. Vous améliorez la valeur économique de votre parcelle et vous améliorez la biodiversité de cette même parcelle. Donc c'est aussi une bonne illustration du fait que là, l'écologie et l'économie, elles sont complètement liées. Et qu'en matière de foresterie, opposer les deux, c'est une stupidité. L'écologie, c'est la meilleure alliée du sylviculteur. Là aussi, c'est on n'a pas toujours dit ça. Pour un certain nombre de gens, la biodiversité ou l'écologie, c'est quelque chose qui empêche de produire en rond. Ben, c'est pas vrai. En foresterie, c'est pas vrai. Maintenir des arbres morts ou à cavité, on l'a dit. 2 à 6 à l'hectare. Alors pourquoi 2 à 6 à l'hectare? Ben, les spécialistes des oiseaux, des chauves-souris savent que une chauve-souris, elle a pas besoin. Ils ont différents gîtes. Il faut un minimum de 6 arbres morts ou à cavité à l'hectare pour qu'une population de chauves-souris arboricoles reste sur place, soit viable. Alors évidemment, il y en a pas partout. On va pas en inventer non plus s'il y en a pas dans les forêts. Ben, par contre, s'il y a aucun arbre mort ou à cavité dans une forêt, si on veut essayer de prévoir les choses, on va marquer quelques arbres mal conformés, etc., ou dont on pense que, bon, de toute façon, ils donneront jamais rien d'extraordinaire sur le plan économique, et on va les laisser vieillir et mourir leur belle mort. Encore une fois, quand on agit en forêt, on agit sur le très long terme, on ne fait pas les choses pour l'année d'après. Et un jour ou l'autre, ces arbres-là auront des cavités, donc là, on essaye de prévoir les choses. Mélanger les essences, donc faire le plein d'essence, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi bien dans l'étage dominant que dans l'étage dominé, donc pour assurer cette fameuse résilience. Protéger les sols, alors ça paraît le BABA, mais malheureusement, après la tempête de 99 aussi, on s'est aperçu de quoi. Ben, comme des gens ont voulu nettoyer très très vite, on a fait venir au mois de janvier ou février, parce que la tempête a eu lieu fin décembre, des matériels énormes sur des sols gorgés d'eau, et c'était un désastre, parce que vous avez des forêts qui, pendant 20 ans ou 30 ans, ne pourront plus rien produire. Le sol est totalement compacté, transformé en béton, c'est impossible de faire pousser quoi que ce soit. Donc il faut faire très attention à ça. Et il y a une certaine tendance à l'utilisation de matériaux de plus en plus lourds aussi en forêt. Gestion des forêts canadiennes. Vous avez des machines qui viennent, qui abattent, qui tronçonnent, qui coupent les arbres, etc. Boum, ça sort comme des rondelles de saucisson. Ça pèse un poids pas possible et ça pose des dégâts assez redoutables. Conserver du bois mort à terre, on en a parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Pour les insectes saproxyliques, les piscidés, c'est la famille des pics, et les champignons. Conserver, gérer les milieux associés. Est-ce que ça coûte quelque chose ou est-ce que ça empêche la gestion économique d'une forêt que de conserver des mares? Ça coûte rien du tout, très franchement. Vous avez une pelouse, vous la laissez en tant que pelouse. Peut-être tous les 3, 4 ans ou 5 ans, vous passez un gyrobroyeur dessus. Mais en général, les propriétaires forestiers en ont pour assurer l'entretien des plantations. Donc ça lui permet de garder la biodiversité de cette zone-là et de bénéficier des services rendus par les espèces qui y vivent. Ça ne gêne absolument pas l'exploitation économique. Et conserver des éléments de biodiversité et les fameux micro-habitats, même un fossé est utile, même une mare temporaire asséchée en été, elle est utile, parce que cette mare temporaire, elle l'est en été, il n'y a pas d'eau, mais par contre, en hiver, il y a de l'eau. Et elle va servir à quoi? C'est là que va aller se reproduire la salamandre. En quoi c'est utile une salamandre? Une salamandre, ça boulotte une quantité incroyable d'escargots et de limaces. En quoi les escargots et les limaces posent des problèmes? Ça boulotte pas mal de semences forestières. Donc si vous avez des mares en eau avec des salamandres, etc., vous avez moins d'escargots, moins de limaces et plus de graines. etc., etc. Tout est lié en forêt, encore une fois. Donc même des endroits qui paraissent totalement anodins, inutiles, les fossés, une bonne partie de la biodiversité végétale en forêt, ça pousse sur les fossés, notamment les orchidées, comme l'orchis singe, qui est une très très belle orchidée, qui ne supporte pas la concurrence des arbres parce qu'elle a besoin de beaucoup de lumière et de soleil. Les fossés, comme ils sont régulièrement entretenus, il n'y a pas d'arbres dessus. Donc il y a toujours de l'air et de la lumière, et les orchidées peuvent se développer à condition qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Donc même des fossés, ça a l'air de rien du tout, c'est pas un milieu naturel fantastique, ni très sexy, c'est extrêmement utile parce qu'il y a plein d'espèces qui y vivent, insectes, papillons, etc. Alors ça, c'est aussi... Alors, on parlait de l'uniculture tout à l'heure. Voilà un exemple de l'uniculture, la forêt des Landes, du pin maritime. Alors ça, c'est les dégâts de la tempête, pas celle de 99, celle de janvier 2010. Je dis pas de bêtises. Janvier 2010 ou janvier 2009, je sais plus. Dès la dernière grande tempête, où les jeunes arbres qui avaient été replantés après 99 ont été à nouveau couchés par la tempête, 10 ans après. Grosso modo, c'était 10 ans après. Bon, alors ça nous pose des questions. Est-ce qu'il faut qu'on refasse indéfiniment la même chose? Au prétexte que ça, c'est une grosse valeur économique. Du pin maritime, ça se coupe à 40 ans, 50 ans, etc. Ça fait de la papeterie, on en a besoin. Des lambris de pin maritime, personne ne nie l'intérêt économique du pin maritime. Mais si on continue à faire ça sur des centaines de milliers d'hectares, sans réintroduire une partie de feuillus, sans conserver des lisières étagées, etc., C'est des forêts qui sont extrêmement fragiles. Donc là, en plus, pour réparer ça, on fait venir des gros tracteurs avec des croque-souches, etc. On bouleverse le sol, il n'y a plus grand-chose au sol. Donc c'est des forêts sur lesquelles la biodiversité, c'est zéro. Et la prochaine tempête, je ne sais pas ce qu'elle y fera. Imaginons, on nettoie tout, on replante à l'identique, et puis dans 10 ans, il y aura encore une tempête, ou dans 5 ans, personne ne sait quand. Mais voilà, ça ne me paraît pas être totalement... Donc ce qu'il faut, c'est des endroits où on fiche la paix à la nature, les grandes réserves naturelles, et des endroits où on gère la forêt, mais avec les leçons de l'écologie, en respectant la biodiversité et la naturalité. Encore une fois, ça paraît extrêmement important. Voilà, bon, ça c'est. Alors, il y a plusieurs grands débats à l'heure actuelle autour de. J'espère que je ne vous assomme pas trop. Plusieurs grands débats à l'heure actuelle autour de la forêt, évidemment. Le changement climatique. Le chêne pédonculé dépérit un peu partout en France, notoirement en Poitou-Charentes. On a plusieurs milliers d'hectares de chênes. On a 25% des peuplements de chênes qui sont touchés par la sécheresse en Poitou-Charentes. Parce que le chêne pédonculé, c'est un arbre noble qui donne des produits de grande qualité, etc. On l'a mis un petit peu partout, y compris dans des stations où il n'avait pas suffisamment d'eau. Et là, avec la sécheresse, il commence à crever. Donc il faudrait le remplacer par le chêne sessile. Bon, comment on fait ? C'est pas avec quels moyens on le fait. Enfin, bon, c'est l'État encore, il a les moyens, et il a son personnel, etc. Et puis il peut agir sur le long terme. Le petit propriétaire privé, il n'a pas forcément les moyens de répondre à ces défis-là. Alors pour faire face aussi aux risques dus au changement climatique, c'est pas seulement la sécheresse, mais les tempêtes. On dit, au lieu de laisser vieillir les arbres, de les laisser atteindre des grandes hauteurs, donc avec des arbres forcément fragiles et sensibles aux coups de vent, on va essayer de dynamiser la sylviculture. Donc au lieu de couper un arbre à chêne à 120 ans, on va le couper à 80. On va éviter 40 ans de risque. On va le couper à 80 au lieu de 120. Donc voilà, pendant on a gagné 40 ans, si vous voulez, pendant lequel on aurait pu avoir des tempêtes et des dégâts. Alors c'est pas idiot, mais en même temps, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire la nécessité de laisser les arbres vieillir. C'est de l'anti-îlot de vieillissement, là. C'est plutôt des îlots de rajeunissement qu'on fait. Donc c'est un débat à l'heure actuelle qu'il faut pas négliger, parce qu'il est important. Au nom de la concurrence en eau, certains vous disent, le sous-étage, bon, on s'intéresse aux arbres de production, les chênes, les hêtres, les pins maritimes, et puis tout ce qui pousse en dessous, finalement, ça consomme de l'eau. Comme il y a de moins en moins d'eau, on élimine tout le sous-étage. Et qu'est-ce qui se passe ? On élimine toutes les espèces et toute la biodiversité associée au sous-étage. Et en même temps, d'ailleurs, entre parenthèses, on ne ferait qu'accentuer les effets de la sécheresse, puisque le sous-étage, il protège le sol du fameux soleil. Il n'y a pas que le lierre sur le tronc d'arbre. Le sous-étage, il crée un microclimat. Il enrichit l'humus, il évite les grands dessèchements, il évite les écarts de température. Donc c'est une très mauvaise bonne solution, quoi. C'est vraiment pas ce qu'il faudrait faire, mais c'est quelque chose qu'on entend, qui fait partie des débats qui agitent la communauté forestière à l'heure actuelle. Le développement du bois énergie, ça aussi, bon, le pétrole ça pollue, on est d'accord, l'électricité c'est pas terrible, on est d'accord aussi parce que centrale nucléaire, etc. Donc le bois c'est vachement bien parce que c'est écologique. Ben oui, mais si on se met tous à chauffer au bois, avec la pression qui existe déjà chez certains massifs, il y aura plus du tout de bois mort. Parce qu'on va tout sortir de la forêt pour faire des plaquettes forestières, par exemple. Donc au niveau de la chaudière, c'est un carburant écologique, mais si on sort tout le bois mort pour faire des plaquettes forestières, on ruine la biodiversité des peuplements. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour une bonne raison, on risque de faire des choses... Le remède est pire que le mal, là, si j'ose dire. Donc c'est aussi un gros débat. Et moi, je sais qu'à l'heure actuelle, en Poitou-Charentes, il y a des grandes collectivités, des communautés de communes qui sont équipées de chaudières bois. Super. Mais une fois que la chaudière bois est construite, eh ben, on essaye de trouver le gisement pour alimenter la dite chaudière. Et des fois, il n'y en a pas. Donc, il y a un problème potentiel de ressources. S'il faut faire venir le bois pour faire les plaquettes forestières de plusieurs centaines de kilomètres, alors là, le bilan carbone qu'on a gagné au niveau de la combustion, il est perdu parce qu'on a transporté ça sur des camions. Donc c'est vraiment un problème. Et à l'heure actuelle, par exemple, avec l'ADEME, l'Agence pour le développement, la maîtrise de l'énergie, etc., on essaye de porter un message de précaution environnementale en disant « Oui, on est pour le bois énergie. Bien sûr, en tant que forestier, on ne peut pas être contre. Mais attention, il faut garder du bois mort en forêt pour la fertilité, pour l'humus, pour la biodiversité. Sinon, ce qui est prétendument écologique fiche en l'air le milieu d'où provient le bois, quoi. Et c'est un gros débat, et je peux vous dire que c'est pas forcément très très simple. Voilà, donc, oui, alors, pardonnez-moi ce jeu de mots un peu... Bon, c'est le soir. Mais ça, c'est biodiversité et naturalité, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est à réserver aux seuls écologistes. C'est quelque chose, donc, tout à chacun qui s'intéresse à la forêt et à sa gestion doit prendre conscience. Hein. Alors, on a une petite messagère. On a parlé d'insectes saproxylés qui se nourrissent de bois mort. On en a un très beau dans la région Poitou-Charentes qui s'appelle d'un joli nom, Rosalie. Bon, suivant Rosalie, c'est simplement pour dire qu'il faut tenir compte du bois mort et des insectes dans la gestion des forêts. La Rosalie alpine, qui est cet insecte-là, qui est un gros coléoptère qui se nourrit de bois mort. On a la chance en Poitou-Charentes d'en avoir encore des populations relativement abondantes, notamment en forêt de Chizé, mais on peut aussi en trouver dans des vieilles peuplerets. C'est un insecte qui est en voie de disparition à l'échelle européenne et sa simple présence peut suffire à créer des sites Natura 2000 en forêt. Donc nous, on en a, mais ailleurs, il n'y en a plus du tout. Donc ça fait partie des choses dont il faut y faire attention, ça fait partie du patrimoine. Si on avait des forêts gérées avec une seule essence et sans bois mort, c'est fini, cette espèce-là disparaît, il n'y en a plus. Moi, je dis toujours que quand une espèce comme ça disparaît, plus personne ne la recréera, quoi. À la limite, on peut imaginer qu'une église romane, on la rase, on l'a prise en photo, etc. On peut peut-être trouver des artisans qui referont à peu près la même chose, même si elle aura perdu son... toute la valeur des années, etc. Hein, mais une espèce animale, personne n'ira la recréer, quoi. Hein, et ça peut aller très très vite. Et vous savez que en matière de biodiversité, Médès France a fait cette superbe exposition là sur la biodiversité. Ça va 1000 fois plus vite que le taux d'extinction normal des espèces en nature. Hein, donc d'une génération d'humains à l'autre, on peut très bien ne plus jamais voir les mêmes. Les enfants de demain verront pas forcément les mêmes espèces que nous on a vues. Et ça c'est important. Et les forestiers sont responsables d'une partie de cette biodiversité-là. Hein. Et puis enfin, aussi, cette phrase-là que j'aime bien, c'est le côté que je revendique un peu. Sortons un petit peu du scientisme pur et dur. Produire du bois ne doit pas se faire en effaçant ce qui fait de nous des êtres sensibles. Hein. Le forestier, il doit être gestionnaire, sinon c'est pas un bon forestier. Mais il doit être en même temps comptable, poète, paysagiste, écologue. Alors c'est pas simple, hein, parce qu'on peut aussi avoir, on peut pas être bon dans tout, quoi. Mais c'est simplement pour dire que la forêt, ça peut pas se résumer à une dimension en ignorant toutes les autres. Hein. On doit essayer de voir tout ça en même temps, parce que tout est imbriqué. Et qu'en même temps, vous avez vu que garder du lierre, garder du bois mort, etc., c'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'être un spécialiste hors pair pour garder de la biodiversité en forêt. Et je résiste pas aussi à vous citer ces deux auteurs-là, que certains d'entre vous connaissent peut-être un petit peu. Robert Hénard, qui était un peintre, sculpteur, philosophe. Je vous recommande, il a écrit des livres, Expansion et nature, une morale à la mesure de notre puissance, par exemple, qui est un livre absolument extraordinaire, qui a été réédité il n'y a pas longtemps au courrier du livre, si je ne m'abuse. Un jour viendra, sans doute plus tôt que nous le pensions, le degré de civilisation d'une société se jugera non pas à la maîtrise qu'elle aura acquise sur la nature, mais au degré de sauvagerie qu'elle aura laissé subsister. La sauvagerie, on en a besoin. L'homme se définit par rapport à quoi ? On se définit par rapport à la nature. Si on détruit la nature, comment on va se définir demain ? On va perdre notre identité. Vous allez me dire, oh, ça c'est de la philosophie, mais oui, bah oui, oui, un petit peu. On a besoin de ça, on a besoin de monde sauvage. On pourrait faire un jour une conférence sur tous les grands auteurs, notamment nord-américains, qui ont beaucoup écrit là-dessus. Aldo Leopold, notamment, donc, qui a écrit ça aussi. Dans un monde d'abondance de biens et d'appauvrissement de la vie, nous ne pouvons plus ignorer la valeur de l'échange et la nécessité de l'appartenance. Ce fragile équilibre, résumé ici dans le motif de l'éthique de la Terre. L'éthique de la Terre est un livre qui vient d'être publié aussi dans une nouvelle collection, un nouvel éditeur qui s'appelle Wild Project, un éditeur français qui édite des grands textes de naturalistes et de philosophes nord-américains, notamment. C'est le seul à le faire, et il y a des textes absolument magnifiques là-dessus. Donc c'est tout le problème, finalement, aussi, la foresterie, du rapport de l'homme à la nature. C'est quel est notre rapport par rapport à la forêt ? Que voulons-nous faire de la forêt ? Parce que, finalement, son sort, il est entre nos mains. Hein ? Une forêt, ça peut aller très très vite à disparaître, hein ? On peut la foutre en l'air. Alors on peut laisser des arbres, mais on peut détruire la forêt en tant qu'écosystème. On peut avoir une société d'arbres. C'est plus tellement... voilà. Ou alors on peut de plus en avoir du tout. Bon, je vous ai cité simplement quelques bouquins là aussi parce que je laisserai le PowerPoint si vous avez envie de lire un jour ces livres-là. David-Henri Thoreau, peut-être quelqu'un d'entre vous le connaît, cet auteur-là. Walden ou la vie dans les bois. Il avait aussi écrit un livre sur la désobéissance civile, qui avait fait très célèbre en Amérique. Jean-Claude Genot est un de mes homologues qui travaille dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, qui défend beaucoup les forêts naturelles. Donc il a écrit « Quelle éthique pour la nature ». Bernard Boisson, c'est un photographe. Alors si vous êtes sensible à la dimension esthétique des forêts, c'est probablement le meilleur photographe que je connaisse au monde de forêts. Ce type a un don, quand il va dans une forêt, vous voyez rien, lui il sort avec des photos pas possibles, vous êtes passé à côté de choses incroyables, il fait des photos magnifiques. Donc La forêt primordiale, c'est vraiment un super bouquin. Robert Reynard, je vous en ai parlé, Expansion et nature. Aldo Léopold, c'est un très beau texte, Almanach d'un comté des sables. Il parle pas que de la forêt, il parle aussi beaucoup des rivières. C'est un amoureux de la rivière. Et John Muir, Un état dans la Sierra, aux éditions Ebeck, qui est une maison d'édition qui a beaucoup édité aussi d'auteurs naturalistes. Et puis enfin, Valory, biodiversité, naturalité, humanité. C'est un grand... Alors, biodiversité, naturalité, humanité, vous voyez, un peu mégalomane hein, comme sujet. On a fait un colloque pendant 8 jours à Chambéry, il y a 2 ans, là-dessus. Et notamment, il y avait la famille de Robert Reynard qui était là. Il y avait 400 scientifiques, chercheurs, gestionnaires, propriétaires, élus, administration, ensemble, pendant une semaine, pour parler de biodiversité et de naturalité en forêt. Donc je peux vous dire que de temps en temps, il y a eu des moments de communion, et puis de temps en temps, il y a eu des moments où on s'est un peu frité, parce que tout le monde n'était évidemment pas d'accord, quoi. Mais ça a été extrêmement enrichissant. Il y avait une journée entière qui était consacrée à du terrain. D'ailleurs, on avait bien parlé, bien discuté, bien échangé, bien argumenté. Quelquefois, on s'était appelé de nom d'oiseau. Puis après, on est allé passer ensemble une journée sur le terrain, voir un petit peu concrètement toucher les choses. Et là, c'était encore plus intéressant parce que, voilà, d'un seul coup, ça changeait les choses, quoi. Hein, on n'était plus en salle autour de textes, etc., autour de graphiques, autour de formules. On était vraiment sur le terrain, au milieu de la forêt, et on se posait des questions sur le terrain. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, on essaye de multiplier un peu ce genre de manifestations-là parce que ça fait progresser le schmilblick, comme on dit. Voilà ce qu'on peut essayer de dire un petit peu, sans être trop long, sur la biodiversité et la naturalité en forêt gérée. Encore une fois, elle a sa place. Et donc, un des gros débats, c'est pour ça que je vous parlais du colloque de Chambéry, c'est qu'on cherche de plus en plus à opposer, malheureusement, la forêt exploitée et la forêt protégée. Et je suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui vous disent, on va laisser quelques forêts tranquilles, comme ça les écolos nous foutront la paix. Hein, on va laisser 10 000 hectares. Comme ça, ils feront joujou avec leurs 10 000 hectares, puis on aura la paix ailleurs, on fera ce qu'on voudra. C'est une hérésie. Parce que les endroits où certains pensent pouvoir faire joujou tranquillement, s'ils artificialisent totalement leurs forêts, avec les problématiques de changement climatique, de maladies, de parasites, etc., ils vont se casser le nez. Les forêts, nous, on défend des forêts avec une gestion qu'on appelle multifonctionnelle. C'est-à-dire, dans une même forêt, vous stockez du dioxyde de carbone, vous accueillez la biodiversité, vous protégez la qualité de l'eau parce que la forêt, c'est un filtre naturel pour l'eau, etc., etc., et vous produisez du bois. On peut faire tout ça en même temps. C'est une question de volonté, c'est une question d'humilité. Le métier de forestier est un métier où on doit être humble parce que la nature nous apprend aussi que de temps en temps, on est un petit peu prétentieux. On peut faire tout ça en même temps sur les mêmes endroits. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de défendre. Et vous savez qu'il y a toutes les problématiques de certification forestière, PEFC, FSC, vous avez peut-être entendu ça, des labels de qualité qu'on donne. Vous allez acheter du bois chez n'importe quel vendeur de bois, vous avez des labels sur le bois. PEFC, FSC, ça veut dire qu'en principe, le bois vient d'une forêt gérée en respectant un certain nombre de choses. Alors, il y a une guerre des labels. Il y a des labels plus ou moins fiables, plus ou moins bons, avec des problèmes de vérification, de contrôle, etc. Mais c'est, on assiste depuis quelques années, alors qu'on pensait avoir gagné, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient convaincus sur le fait que la biodiversité est utile, etc. On voit se raidir un petit peu les positions maintenant, depuis quelques temps. Donc les partisans de la forêt multifonctionnelle et les partisans de les forêts uniquement consacrées à la production. Donc ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. Je ne sais pas si les choses seront véritablement abordées comme il le faut dans les années qui viennent, mais c'est un débat en tout cas passionnant. Est-ce que vous avez des questions, non, ou des réactions par rapport à tout ça? Ou des protestations véhémentes? Ouais, il y a un micro qui est là.
Pour vous intimider, mais comme on enregistre la conférence pour que...
Ouais. Pour vous donner une petite idée, pardon Christine, dernièrement il y a eu un colloque au Sénat sur l'avenir de la forêt française. Alors, j'ai entendu quelqu'un dont je tairai le nom, devoir de réserve, mais qui avait une responsabilité importante au niveau d'un ministère important, etc., déclarer devant une assemblée de chercheurs et de gestionnaires de forêts sans que cela suscite la moindre critique, bon, sauf la mienne, mais bon, c'est pas important, moi je suis pas grand-chose, déclarer que la forêt, c'est un gigantesque amas de molécules chimiques sous-exploitées et qu'il fallait quand même devenir intelligent et lui faire cracher un maximum parce que ça, c'était de l'écologie, quoi. Voilà, donc vous avez des gens pour qui la forêt, c'est un amas de molécules chimiques. Et ça, c'est... voilà. Moi, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un petit peu. Hein. Oui, je vous en prie.
Vous patientez deux petites secondes. Je vais apporter le micro.
J'ai l'impression que l'État, en ce moment, bon, il veut rentabiliser pas mal de choses. Justement. Oui. Il a besoin de rentabiliser ses forêts. Et justement, je voulais savoir ce qu'il en était un petit peu du devenir des forêts de l'État, parce que vous parlez de la forêt naturelle en Bourgogne, mais j'ai l'impression qu'ailleurs, c'est plutôt la grande coupe.
Oui. Alors, je sais que... Bon, je vais... C'est un peu délicat quand on est forestier, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de témoignages de la part de gestionnaires de forêts domaniales qui parlent dans leurs communiqués, dans leurs manifestations. Il y a eu pour la première fois, il y a un an ou deux, une grande manifestation de 7 ou 8 000 personnes, personnels de l'ONF, en costume. Alors c'est impressionnant quand on voit 7 ou 8 000 bonhommes en costume. Parce que ils disent que on décapitalise les forêts domaniales. Et que quand ils font un martelage, c'est-à-dire quand ils vont en forêt pour marquer les arbres qui vont être exploités, souvent ils reviennent avec ce qu'on appelle le carnet de martelage et on leur dit de retourner sur le terrain parce qu'ils n'ont pas marqué assez. Or, ce sont des gens qui, des professionnels qui vivent leur forêt, c'est des gens passionnés par leur forêt, etc. Donc il y a une grosse pression là-dessus, effectivement, et des inquiétudes qui se font part de plus en plus. Oui. Alors nous on en entend parler très très souvent. Il y a une certaine tension à l'heure actuelle à ce sujet-là. Ça c'est sûr. D'un autre côté, il y a eu des choses aussi qui ont progressé. Bon, les îlots de vieillissement, le programme de réserve intégrale en forêt domaniale, ça n'existait pas il y a 10 ans, donc ça on peut dire que c'est bien. Et d'un autre côté, il y a l'inverse, quoi. Donc on est vraiment entre deux tendances. Et je ne sais pas de quel côté va pencher vraiment le balancier dans les années à venir, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse pression sur les forêts. Et qu'on continue à dire que la forêt française est sous-exploitée. Ben, je m'oppose formellement à ça, parce que ça, c'est simplifier fortement la chose. Oui, il y a des forêts qui sont sous-exploitées, mais oui, il y a des forêts qui sont très exploitées. Donc il ne faut pas dire ça. La forêt française, globalement, est sous-exploitée. Ce n'est pas vrai. Il y a des forêts qui sont très bien exploitées, il y a des forêts qui sont peut-être un peu trop exploitées, il y a des forêts qui sont plus exploitées. Mais vous pouvez pas résumer ça d'une manière aussi... Alors ça, dire la forêt est sous-exploitée, bah, c'est un prétexte pour sortir encore plus de bois d'un certain nombre d'endroits où il faudrait surtout pas... Saint-Dié dans les Vosges, là où j'ai été faire cette même conférence, c'était un festival international de géographie. Les pédologues, moi je suis pas pédologue, je connais pas grand chose dans ce domaine-là, mais je dois quand même m'y intéresser parce que la science du sol, pour un forestier, faut quand même savoir un certain nombre de choses, sinon on fait des âneries, quoi. Les pédologues nous disent qu'il faudrait sur à peu près 10 000 hectares dans les forêts des Vosges qui ont été très touchés il y a 30 ou 40 ans par les pluies acides et qui sont maintenant touchés par la pollution azotée, des pots beaucoup trop important d'azote, donc des sols déséquilibrés. Il faudrait plus du tout faire d'exploitation pendant au moins 40 à 50 ans pour laisser les sols se reconstituer. Vous imaginez dire ça à des élus dans les Vosges, où certaines communes voient 70% des revenus, c'est les coupes de bois. On n'est pas à 15% de taux de boisement, on est à 60-70% dans les Vosges. Donc c'est vrai, le budget d'un certain nombre de communes, c'est vraiment la forêt. Si on leur dit que pour des raisons scientifiques et très justifiées qu'il faut plus exploiter rien du tout pendant au moins 50 ans sur 10 000 hectares, ça suscite des réactions, quoi. Mais c'est aussi une réalité. Et c'est des endroits où, notamment, certaines pressions en forêt domaniale font qu'on continue d'exploiter beaucoup, alors que les sols, à chaque fois que vous exportez un gros arbre, vous exportez en même temps les éléments minéraux qu'il a puisés dans le sol. Et sur des sols déjà qui sont sur la tendance... une mauvaise tendance, vous accentuez les phénomènes d'appauvrissement, quoi. Donc c'est vrai, c'est un gros débat à l'heure actuelle. Le monde forestier n'est pas particulièrement euphorique depuis quelque temps. Il y a eu création de bureaux. Le bois énergie dont je parlais tout à l'heure, ça fait vraiment partie de ça, quoi. Alors Est-ce qu'on va faire en sorte que le discours qui a quand même, qui s'est bien amélioré, que les actes correspondent au discours? Je sais pas. Mais on peut avoir quelques inquiétudes, oui. Alors bon, forêt domaniale, parce que c'est les plus visibles. Peut-être quelquefois, ça peut être aussi les mêmes problèmes en forêt privée. Hein. Bon, disons globalement, le monde de la forêt se trouve confronté à ce défi-là du bois énergie, de la nécessité de rentabiliser. Le problème aussi, c'est que vous avez de moins en moins de forestiers. Office national des forêts, en 1970, il y avait 12 000 personnes. Il y en a moins de 7 000 à l'heure actuelle. Le volume de forêt, il n'a pas diminué. La quantité de travail, elle n'a pas diminué. Avant, vous avez un agent responsable d'un triage. Il était responsable au maximum de 1000 hectares. Maintenant, vous avez des agents qui sont responsables de 2 à 3000 hectares. Ils font comment? Un peu compliqué. La forêt privée, il y a 80 postes de déficit au niveau national. Alors, je fais pas de politique, je constate, c'est des chiffres, c'est tout, je dis rien. Mais non seulement il y a pas, les postes n'ont pas été créés, mais il va y en avoir de supprimés. Alors qu'on demande, vous avez entendu parler d'une certaine formule, produire plus en préservant mieux. Ben, on produit plus avec qui? Et on préserve mieux comment? Et avec qui aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, si, bon, voilà. Donc, c'est aussi un problème. Je ne prétends pas avoir des solutions à tout. Hein. Mais c'est un vrai problème, un problème réel. Alors que tout le monde parle de biodiversité. Ça, alors là, la biodiversité, d'ailleurs, normalement, on aurait dû stopper, d'ailleurs, 2010, ça y est, on a stoppé l'érosion de la biodiversité. Donc maintenant, ça a été reculé de 10 ans, parce qu'évidemment, on n'a pas stoppé l'érosion de la biodiversité. Mais bon, c'est dans tous les discours. Nagoya, au Japon, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé au Japon. Pour les uns, c'est bien, pour les autres, alors c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, etc. L'année prochaine, c'est l'année internationale de la forêt. Donc il va se passer plein de colloques, plein de réunions, un petit peu partout. On va beaucoup parler autour de la forêt. Les choses bougent un petit peu en matière de forêt tropicale, en matière de forêt européenne. La situation est moins pire qu'ailleurs, mais elle n'est pas pour autant totalement florissante, quoi. Je veux dire, faut pas cacher les problèmes, voilà. Faut pas exagérer, mais faut pas dans un sens ou dans l'autre, quoi. Pour ça que je dis, encore une fois, moi je défends fortement la biodiversité et la naturalité en forêt gérée. On peut parfaitement faire les deux, produire du bois et produire des vies. Animal et végétal. C'est pas du tout antinomique. Ah ben après, citoyen lambda, il en parle, il lit, il fait des pétitions s'il pense qu'il y a un problème, il questionne le gestionnaire s'il pense qu'il y a un problème, voilà quoi. Il va voir le journaliste du coin, il dit bon, je pense qu'il y a un problème à tel ou tel endroit. C'est de parler des choses, questionner les gens, voilà, essayer d'avoir un dialogue, parce que c'est encore la meilleure façon d'essayer de solutionner les choses, c'est le dialogue, si tant est que les gens sachent s'écouter. Mais à part ça, je vois pas trop, quoi. Hein. Les associations sont relativement attentives. On a peut-être été pas assez attentifs à la forêt, parce que pendant très longtemps, on s'est beaucoup préoccupé des zones humides. Ben, en Poitou-Charentes, la priorité des associations naturalistes, et je suis aussi naturaliste, c'était sauver les derniers marais, et c'était vrai. Mais en même temps, on avait peut-être aussi un petit peu oublié les forêts, quoi. Les marais, oui, mais il y a aussi les forêts.
Comment est-ce qu'on peut introduire de la biodiversité dans des secteurs comme les Landes, par exemple, de Gascogne, où on a vu effectivement
oui.
La culture, et alors qu'on sait très bien qu'effectivement aussi le sol,
ah, oui. 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 Eh ben, il y a des solutions très, très faciles. Il y a un programme de recherche qui s'appelle Islande, avec un S, un programme de recherche de l'INRA, conjoint avec le CNRS, donc de l'INRA de Bordeaux, et qui a démontré que quand on réintroduit des îlots de feuillus de 1 à 4 hectares dans une grande monoculture de résineux, à une échelle de représentativité suffisante, on faisait diminuer les dégâts, par exemple, de phomèses, donc de champignons, ou de Matsukokus, donc des insectes qui s'attaquent aux pins maritimes, de 20 à 30% dans les 5 premières années. Parce que on fait revenir des espèces animales, comme la huppe faciée, par exemple. La huppe faciée consomme des chrysalides de chenilles processionnaires. De même que le coucou. Il faut avoir déjà un gosier solide. Mais ce sont des espèces d'oiseaux qui s'attaquent à ces parasites-là. Et en même temps, quand vous reconstituez, par exemple, autour d'un massif de feuillus, des lisières feuillues, vous perturbez le déplacement des papillons de la chenille processionnaire. Il perd ses repères, il se déplace beaucoup moins loin, parce que d'un seul coup, il tombe sur un mur de feuillus, il se dit, oulala, ben, où sont passés mes, où sont passés mes résineux favoris. Donc les dégâts diminuent aussi d'un facteur très important. Donc vous remettez pas en cause le choix du pin maritime, etc. Mais vous refaites des lisières feuillues, vous refaites des îlots de 1 à 4 hectares, et sur 800 000 hectares, il y a quand même la place pour quelques îlots de feuillus, quoi. Hein, avec du chêne pubescent, avec du chêne tauzin, avec des chênes qui n'auront pas de valeur économique, qui auront une valeur environnementale. Vous allez restaurer une certaine partie de la biodiversité et rendre vos forêts plus résilientes à des coûts minimes. Ça coûte rien. Et en même temps, si vous réintroduisez d'ailleurs des lisières de feuillus, une lisière en écologie, c'est ce qu'on appelle un écotone, une zone de transition entre un milieu ouvert et un milieu fermé. Et on sait que c'est, alors, vous avez dans un même endroit à la fois des espèces de milieu ouvert, des espèces de milieu fermé. Donc, sur le plan écologique, c'est beaucoup plus riche, qu'un seul des deux milieux. Vous avez beaucoup d'espèces d'oiseaux, d'insectes, de reptiles, etc. Ben, si vous traitez votre lisière feuillue comme une haie, étagé avec une strate herbacée, des buissons, des arbres d'auger, etc. Vous n'allez pas arrêter le vent à 200 km/h. Vous allez diminuer un peu la force du vent et faire en sorte qu'au lieu de taper sur un mur, le vent, il va s'infiltrer en partie en bas, parce qu'il aura pu passer entre les arbres, etc. Et il y aura beaucoup moins de tourbillons qui vont retomber à l'intérieur des massifs de production. Donc vous allez diminuer les dégâts, y compris donc à l'intérieur des forêts productives. Donc vous gagnez sur les deux plans. Vous avez moins de dégâts économiques, et vous avez beaucoup plus d'intérêt biologique. Donc ça, c'est très facile à faire. C'est simplement une prise de conscience et une volonté de faire les choses. C'est peut-être aussi la volonté, l'acceptation de perdre quelques mètres carrés. vous savez, c'est comme le paysan qui va labourer jusqu'au bord de la route, quoi. Hein. Voilà. Vous lui dites, vous laissez 5 mètres là pour faire une haie. Laisser 5 mètres, mais je vais perdre. Bon, il va perdre 3 rangs de maïs. Mais en réalité, il va gagner beaucoup plus parce que dans sa haie, il va y avoir des insectes auxiliaires ou des oiseaux auxiliaires, etc. Mais ça, voilà. C'est difficile à rentrer dans les mentalités. Pour les forestiers très productivistes, ça peut être aussi un petit peu la même chose. Mais on a les solutions scientifiques et techniques. Et encore une fois, à très moindre coût, quoi.
Plusieurs choses en vrac, mais qui font lien avec les interventions précédentes. La première, tu proposes 8 bouquins, 8 auteurs. Et auteurs sans eux, c'est que des mecs. Alors bon, peut-être qu'il y a que les gars qui savent écrire sur la forêt, mais bon, ça me chagrine un peu. Surtout après avoir écouté à France Culture, chez Ruth Segassi, une femme qui parlait il y a un mois et demi des forêts tropicales où effectivement il y avait une diversité qu'on voyait pas au premier plan, au premier abord. Oui, j'avais envie de poser des questions sur l'ONF et ça a déjà été fait. Mais il me semble que on peut être citoyen actif ou passif. Mais quand il y a 8000 personnes qui manifestent, soit on les regarde passer comme aujourd'hui il y avait des manifs ou des grèves à comment ça s'appelle, Pôle emploi. Il y a 1400 bâtiments publics qui sont en vente par l'État actuellement. C'est un peu comme la forêt. On dit, bon, il y a des sous à récupérer. Est-ce qu'on doit laisser faire ça en tant que citoyen, contribuable éventuellement, ou est-ce qu'on laisse les quelques personnes qui sont sensibles à ça et qui sont impliquées en tant qu'agent de l'ONF, par exemple, revendiquer un petit peu plus d'avenir pour la forêt et pour leur boulot. Et je repense à l'anecdote que donnait Pierre Rabhi après une journée de chantier de coupe de bois dans une forêt d'Ardèche ou je sais pas où après une bonne suée, ils arrêtent vers 18h avec un voisin, un copain, et ils s'assoient sur le tas de bois qu'ils avaient coupé, et dans la tombée de la nuit, se découper dans le ciel une silhouette d'un arbre qui épatait Pierre Rabhi. Il dit, oh, dis donc, regarde cet arbre, hein. Vraiment, c'est magnifique de voir ça ce soir, quoi. Et l'autre qui dit, bah ouais, au moins 5-6 mètres cubes là-dedans, 5-6 terres, quoi. Donc c'est vrai que c'est deux façons de voir différentes. Et je pense que les bûches de bois coupées très très fines, ça fait des rondelles comme des pièces de monnaie. Et qu'il y en a qui effectivement ont envie que ça fasse débiter de l'argent. Et par rapport à Nagoya, je vous conseille d'écouter une émission qui était assez édifiante le 16 octobre sur France Culture, Terre à Terre, Ruth Segassi, sur la privatisation du vivant, où la femme qui est intervenue, on peut l'écouter encore que cette semaine, hein, si on veut l'écouter sur le site. Mais en gros, le privé disant la biodiversité, enfin des entreprises privées disant la biodiversité est en péril, il n'y a qu'une solution, c'est de la privatiser pour lui donner une valeur. Et là, on peut laisser faire aussi. Il y en a qui le font déjà, la privatisation des semences, par exemple. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pour l'intérêt commun, planétaire.
Non, tu as raison. Ceci dit, je te rassure. Alors, dans les livres sur la forêt en tant qu'écosystème, il y a très très peu d'auteurs femmes. Dans le monde de la recherche, il y a Marion Gosselin, au CEMAGREF, à Nogent-sur-Vernisson. C'est tout, qui a fait il n'y a pas longtemps un livre dont je n'ai pas parlé là parce que je ne l'ai pas encore lu, qui s'appelle « Comment prendre en compte la biodiversité » ou « Comment mieux prendre en compte la biodiversité en forêt ». Bon, mais c'est la seule que je connaisse. Par contre, le premier grand livre écologique, environnemental, qui est un retentissement mondial, c'est une femme qui l'a écrite, hein, mais ce n'était pas sur la forêt, c'était Rachel Carson, avec le printemps silencieux en 1962. Les seuls écrits que je connaisse, qui sont des écrits d'auteurs femmes, ce sont des femmes qui ont travaillé sur la grande faune. Si tu vas en Afrique, par exemple, qui se bat pour les grands singes, c'est la plupart du temps, ce sont des femmes. Bon, alors je ne sais pas, parce qu'elles sont plus sensibles, probablement, que les hommes à la souffrance animale et qu'elles n'ont pas de complexe de virilité, heureusement pour elles. Donc elles savent être sensibles à ça, elles se battent beaucoup. Sur le domaine de la forêt proprement dite, il y a très très peu d'auteurs. Enfin, donc c'est pour ça, je le regrette autant que toi. Alors sur le reste, effectivement, c'est la question que tu poses, c'est être consommateur ou alors être consommateur. La formule, elle n'est pas de moi. On a tous une possibilité d'interroger ou d'interpeller, voilà, quoi, et de transmettre l'information. Parce que alors le problème aussi, c'est que les forestiers ne sont pas toujours exempts de critiques non plus. Parce que les 7000 forestiers qui ont défilé en uniforme, ils ne sont pas allés sur les Champs-Élysées, ces couillons-là. Ils ont défilé au cœur de la forêt de Troncet. Parce que la forêt de Troncet, c'est symbolique, parce que c'est la futaie Colbert, parce que vous savez que sous le temps de Colbert, un des premiers grands textes de la sylviculture française, c'est l'ordonnance de 1669 sur le fait des eaux et forêts. Donc c'est Colbert qui a publié ça, parce qu'à l'époque, on se fritait tellement avec nos amis anglais qu'on construisait beaucoup de bateaux de guerre. Et pour faire un bateau de guerre, une corvette de guerre, une frégate de guerre, c'était plusieurs milliers de chênes dont on avait besoin pour faire le bateau. Donc on a inventé la sylviculture à l'époque pour pouvoir continuer à fabriquer des bateaux de guerre. Enfin, c'est assez rigolo. Mais bon. Donc la forêt de Troncet, très symbolique, parce que les chênes avaient été plantés sous Colbert. Il en reste encore quelques-uns, etc. etc. Mais autrement dit, personne n'a vu ça. C'est resté en interne et finalement, c'était totalement raté au niveau de l'impact que ça aurait dû avoir. Imaginons 7000 personnes de l'ONF sur les Champs-Élysées, ça aurait quand même été un petit peu plus médiatisé, quoi. Bon, et c'est vrai quand même, c'est encore pire pour la forêt privée parce que l'ONF, il y a un uniforme. L'ONF, tout le monde sait que l'ONF existe, etc. Personne ne sait comment fonctionne la forêt privée. Qui s'occupe de la forêt privée? Il y a 230 000 propriétaires forestiers, la propriété moyenne c'est 1,4 hectare. Donc c'est monsieur tout le monde et il y a aucune représentativité suffisante ou médiatique possible de ça. C'est un tel émiettement que comment faire en sorte que on puisse faire comprendre le voilà. C'est très compliqué, mais c'est des vrais problèmes, ouais.
Oui, je voulais recentrer un petit peu le sujet là. Donc par rapport au sujet, donc c'est bon en France. On est le seul pays européen où on a la plus grande forêt tropicale au monde. Donc je parle de la Guyane. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est actuellement au niveau de la Guyane, au niveau de la biodiversité. Parce qu'on en entend un petit peu de choses et d'autres. Quoi. On ne sait pas trop où on en est. Quoi. Alors déjà, au niveau de européen, enfin, je ne sais pas si on entend bien.
Ici, on entend. Ouais.
Au niveau européen, je voulais savoir si cette forêt est classée Natura 2000. Parce que vu que bon, la France est classée, on fait partie de l'Europe, donc c'est un département. Et vu les dégâts qui sont faits avec l'or et les orpailleurs, le mercure et tout, dans les rivières, on sait tout ce que ça engendre. Il y a un excellent sujet sur Arte, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je ne sais plus le titre. Et qu'est-ce qui est fait là-bas pour pouvoir préserver, en fin de compte, au moins pouvoir la classer, en tenant compte, bien sûr, de la population indienne qui existe, qui sont là-bas depuis des milliers d'années. On n'en parle pas trop, c'est étonnant de ça, pas par la Guyane. Alors, je voulais savoir où ça en était actuellement.
J'ai une petite réponse à vous donner. Je sais qu'il y a toute une partie de la Guyane qui est interdite de circulation. Personne n'a le droit d'y aller. D'accord. C'est déjà ça.
Mais c'est au niveau européen surtout que je voulais savoir.
Oui. Ça, c'est des mesures qui ont été prises effectivement pour la sauvegarde de certaines peuplades amérindiennes. Ceci étant, c'est un petit peu relativement hypocrite parce qu'à côté de ça, effectivement, on laisse continuer à se dérouler leur paillage qui réduit aussi à néant un certain nombre de populations amérindiennes. On sait que dans les cheveux des Amérindiens, il y a des taux de concentration de mercure hallucinantes, etc. Parce qu'ils se nourrissent de poissons. Évidemment, le mercure, on sait tout ça. Je sais que il y a des sites Natura 2000, oui, en Guyane française, mais limité maintenant à la dimension de la Guyane, bien sûr. Il y a les marais de Caux qui sont une réserve naturelle en même temps, etc. Il y a de très, très grandes réserves naturelles, de 90 000, 100 000, 200 000 hectares. Et il y a un parc national qui a été créé il y a peu de temps, mais qui est encore extrêmement flou, qui est le parc national donc de Guyane sur 3 ou 4 millions d'hectares. La forêt tropicale guyanaise fait entre 8 et 8 millions et demi d'hectares. Donc c'est presque la moitié qui théoriquement est protégée par un parc. Mais avec Survivol, qui est une association qui s'occupe de la défense des Amérindiens notamment, le débat n'est pas clos parce que les ONG disent que l'emplacement du parc national n'a pas tenu de compte des Amérindiens, qu'on a fait ça là où c'était le plus facile, etc., et sans forcément leur demander leur avis, bien évidemment, etc., etc. Donc la délimitation du parc est contestée par un certain nombre d'ONG à l'heure actuelle. Ça n'a pas facilité la création du dit parc. Et à ma connaissance, mais je suis loin de tout savoir, le fonctionnement est encore un petit peu hésitant. Ça a le mérite d'exister. Bon. Alors après ça, on essaye aussi d'inventer une sylviculture tropicale parce qu'elle n'existait pas. Et une des grosses difficultés pour protéger ces endroits-là, c'est qu'il n'y a pas de cadastre. Il n'y a pas de cadastre en Guyane. Donc comment vous voulez protéger un terrain? Vous le délimitez comment? La rivière, machin... Enfin bon, c'est très compliqué et très flou. Donc tant qu'on n'aura pas de cadastre finalisé avec des propriétaires identifiés, etc., ça devient très très compliqué, quoi. Bon, il y a des choses qui commencent, qu'on essaye de faire... Greenpeace y travaille, je vous dis Survivol y travaille, un certain nombre d'autres ONG y bossent. Il y a un mieux par rapport à il y a 10 ou 15 ans, mais bon voilà, c'est encore loin d'être solutionné d'une manière... Et vous savez qu'on a dû se battre encore il y a 2 ans, il y a eu des pétitions absolument partout, contre ça a failli être autorisé, l'implantation d'une mine d'or gigantesque canadienne, voilà. Voilà, qui devait s'installer en plein milieu de la Guyane, non loin de, justement de la région de Caux, qui est une des, un des secteurs, ce qu'on appelle les hotspots hein, en biologie. Il a fallu se battre pendant des mois et des mois pour que ce projet-là soit abandonné, du moins pour l'instant. Pour l'instant, il est abandonné, quoi. Mais alors que tout le monde parlait de la protection de la forêt guyanaise, on avait laissé se développer quand même un projet comme ça, jusqu'à ce que les gens gueulent trop fort, quoi. Une fois que ça s'est su, c'est parti dans la presse, etc. Bon. On leur a scié la branche sur laquelle ils voulaient s'installer.
Et une dernière question, c'est plutôt une réflexion. C'est l'hypocrisie totale, c'est mon avis, hein, actuellement en France ou dans les différents pays européens. On sait que la France, c'est le plus grand massif forestier européen.
On est à 15 millions d'hectares.
15 millions d'hectares. Ouais. Non, c'est par rapport, aux bois tropicaux, aux forêts primaires. On exploite à fond les lobbies exploitent à fond que ce soit en Indonésie ou je ne sais trop où. À force. Bon, il y aura plus de bois, quoi. Bon, on le garde chez nous. Et alors qu'on sait que les plus gros lobbies, on parlait tout à l'heure sur infrastructure. On sait qu'un des plus gros lobbies, c'est les lobbies français, quoi. Donc, je pense qu'il y a une grosse hypocrisie de faire venir le bois de l'extérieur. En même temps, faut aussi garder une certaine biodiversité. Que faire? Quoi faire? Quelles sont les solutions?
Alors, que faire si je reviens au niveau du consommateur lambda qu'on est tous, c'est bien choisir aussi les bois qu'on achète. Moi, je refuse d'acheter du bois tropical qui n'est pas labellisé FSC, par exemple. S'il n'y a pas de label FSC, j'achète pas. Si c'est du bois européen, le label PESC, c'est le minimum, mais déjà, je le demande. Et en plus, je n'essaye d'acheter que des bois locaux. Alors, des fois, c'est un petit peu compliqué, quoi. Par exemple, je préfère utiliser du châtaignier, des Deux-Sèvres, pour faire des volets ou pour faire des meubles chez moi que du Douglas venu de même du Limousin. Parce que, bon, en même temps, je sais que les peuplements de châtaigniers sont un peu plus naturels, entre guillemets, que les douglaseraies intensives, etc. Donc, on a tous une... Mais encore faut-il avoir la connaissance des enjeux. Le problème, c'est que qui a la connaissance des enjeux? Quelle est l'information dont disposent les gens? Est-ce qu'on a des émissions intelligentes, objectives, à des heures de grande écoute dans les médias publics? J'ai pas l'impression que ce soit... le cas, quoi. Donc le problème, c'est effectivement la connaissance des choses. Ben, je pense qu'il faut passer par des associations pour essayer d'avoir la bonne information. Mais encore une fois, on a un pouvoir fantastique. Nous, c'est notre pouvoir de consommateur. On peut refuser d'acheter des choses. Voilà. On peut choisir. Des fois, ben, au lieu de... Il faut attendre plusieurs années parce que ça coûte plus cher aussi. Moi, j'ai changé tout. J'ai acheté une vieille maison. Donc j'ai isolé avec de la ouate de cellulose. Ça, c'est pas malin. Mais les fenêtres en chêne, c'est du chêne de pays. Parce que je connais le menuisier, donc je sais d'où sont venues les chênes de la forêt de Saint-Sauvent. J'ai mis 4 ans, moi, pour me les payer, les chênes, parce que je les ai pas payés ce que j'aurais payé si j'avais pris du bois exotique, quoi. Hein, donc ben, voilà, j'ai fait des économies pendant 4 ans. C'est plus difficile, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Mais bon, encore faut-il avoir la bonne information, parce que vous avez des gens qui, de bonne foi... bois exotique, et puis ils ont souvent besoin tout de suite, immédiatement, de quelque chose. Donc alors là, ils vont se laisser tenter par le PVC ou n'importe quoi aussi. Hein. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat de chacun. Ça, c'est aussi quelque chose de compliqué, quoi. Mais encore une fois, a priori, on a tous une petite parcelle de pouvoir, quoi. Mais il faut se laisser du temps disponible pour des choses, pour autre chose que du Coca-Cola, par exemple.
Pas contre les lobbies, hein. Les lobbies, on ne pourra pas se battre.
Si
chacun y met du tien.
Mais oui. Il y a une parabole qui est celle du colibri. Il y a un incendie gigantesque en forêt tropicale. Gigantesque. Une forêt qui brûle à l'échelle de la forêt tropicale. C'est énorme. Bon. Tous les animaux de la forêt sont sortis de là. Et puis ils sont tous en train de se lamenter. L'éléphant, l'hippopotame, etc. Les gros balèzes, ils sont là en train de pleurer. Leur maison brûle, etc. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Puis il y a un petit colibri. Il y a une mare à côté, toute petite, ridicule. Puis un petit colibri encore plus ridicule que la mare. Il vient de la forêt, il prend une goutte d'eau, il va lâcher la goutte d'eau sur l'incendie, il revient. Hein. Puis au bout d'un moment, quand même, les autres, ils disent, mais mon pauvre ami... t'es complètement malade, quoi. T'as pas peur du ridicule, toi, etc. Il dit, ben moi, je suis peut-être ridicule, mais vous, en même temps, là, vous êtes sur votre gros derrière, toi, l'éléphant qui pourrait ramasser peut-être 300 litres de flotte, etc. Si vous faisiez tous la même chose que moi, peut-être qu'on arriverait à entendre l'incendie. Voilà, je veux dire, on a tous une petite goutte d'eau dont on peut se servir. Quand bien même la goutte d'eau, elle arriverait pas à éteindre l'incendie, au moins, on n'aurait pas laissé faire. On n'aurait pas laissé faire. Voilà, je veux dire, c'est déjà ça, quoi.
Juste sur ce point, moi j'aime bien rappeler que l'océan est constitué de gouttes d'eau. Ouais. Donc, et les lobbies, effectivement, il y a des lobbies d'entreprises, mais l'exemple que tu donnais sur l'entreprise canadienne qui n'a pas pu exploiter l'or, ça prouve quand même que du lobby populaire peut avoir une certaine efficacité. Ouais. Et heureusement, sinon on fait un suicide collectif, c'est pas la peine de continuer, quoi. Une anecdote, un chiffre et une question, proposition. L'anecdote, j'ai vécu 2 ans avec une ONG au Gabon dans les années 80, au moment où se construisait le Transgabonais, un chemin de fer de 800 km de long. C'était le 3e chantier le plus gros du monde à l'époque. Le Gabon, c'est 90% de forêt, avec des bois très précieux, très durs, etc. Les gars avec qui je bossais étaient capables de me dire, en pleine forêt, ça c'est bon pour faire telle construction, ça non, etc. Les traverses de chemin de fer du Transgabonais sont en chêne. Français, parce qu'il y avait du business à faire avec, qui n'est pas du tout adapté, ça va pourrir très vite par rapport aux conditions météo-climatiques qu'il y a là-bas. Le chiffre, c'est que la biodiversité en Guyane est aussi importante que sur l'ensemble du territoire hexagonal français. C'est une ressource, enfin c'est une richesse énorme. Mais... Mais un chantier forestier au Gabon qui est rentable, c'est quand ils sortent une bille hectare. Une seule bille. Et pour sortir cette bille-là, ils en écrabouillent pas mal pour pouvoir la sortir au bulldozer. Et la proposition ou question, c'est, puisque les propriétaires de forêts sont aussi des gens qui ont besoin de gérer leurs ressources, leur capital, etc., et qui voient aussi ce côté financier, est-ce qu'il y a eu... ou est-ce qu'il y aurait moyen de conditionner des aides publiques ou même d'assurance, puisqu'ils sont souvent assurés en disant, si vous avez des îlots de feuillus, par exemple, dans votre forêt landaise de pins, vous serez doublement indemnisé en cas de tempête ou en cas de, je sais pas quoi. Il y a peut-être quelque chose à creuser avec les assurances. Alors, s'il y a un lobby des Alain Persuit et compagnie, il y aura sûrement aussi un lobby des propriétaires en disant, nous embêtez pas avec ces genres de conditionnalités. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. De même que, je crois que la tempête, c'était janvier 2009. Dans la forêt des Landes, et ils ont assez vite réclamé des aides de l'État. Mais on pourrait aussi dire, les aides de l'État, elles tomberont à du simple au double selon le type de gestion que vous aviez, votre considération de la biodiversité.
Alors, il y a déjà des dispositifs qui existent, c'est-à-dire qu'un propriétaire, pour toucher des aides de l'État, doit disposer de ce qu'on appelle un document de gestion durable, qui est soit un plan de gestion, soit un règlement type de gestion, soit un cahier des bonnes pratiques sylvicoles, un code des bonnes pratiques sylvicoles qu'il a signé. Alors c'est un minima, mais c'est déjà quelque chose. Et par exemple, les CRPF sont chargés d'agréer les plans simples de gestion. Et nous, en tout cas en région Poitou-Charentes, on a essayé d'initier, par exemple, dans la matrice des plans simples de gestion, l'obligation de dire si dans la forêt on a des milieux naturels associés ou non. Et ce que compte faire le propriétaire pour les laisser, pour les maintenir en bon état de conservation. Qu'est-ce qu'il va faire de ces milieux naturels associés? Il les garde, il les garde pas, etc. Moyennant quoi, si... Alors ça, c'est pour les documents de gestion durable. Donc ça, ça existe déjà. Hein, il n'y a pas d'aide s'il n'y a pas de ces documents-là, avec un minimum de choses environnementales, même si c'est pas assez, probablement. Et puis la certification forestière, PEFC, par exemple, il y a un cahier des charges que signe le propriétaire. S'il veut continuer à vendre son bois... Par exemple, pour des marchés, vendre son bois dans les marchés publics. Maintenant, la clause, par exemple, dans les marchés publics lancés par la région Poitou-Charentes, c'est le bois est forcément certifié. S'il n'y a pas de label de certification, la région n'achète plus le bois ou ne fera pas appel à l'entrepreneur qui utiliserait du bois non certifié. Donc, il y a des cahiers des charges dans lesquels qu'on est en train de renégocier au niveau national avec France Nature Environnement. Donc, moi, là, j'ai une casquette associative dans le réseau forêt de France Nature Environnement. Et on est en train d'essayer, 5 ans après, les premiers cahiers des charges, de muscler ça un petit peu sur le plan environnemental, parce qu'il y avait un certain nombre de gros manques quand même. Donc on essaye d'induire des obligations. Si le propriétaire ne respecte pas un certain nombre d'obligations, il ne peut pas avoir ce label, et donc il perdra les marchés. Donc c'est un levier possible pour initier un certain nombre de choses, quoi. Bon, ça marchera encore mieux s'il comprend pourquoi... On a initié un certain nombre de recommandations et d'obligations. Par exemple, laisser les arbres morts à cavité, c'est une obligation maintenant. Conserver des milieux naturels associés, c'est une obligation. Après, il y a encore de grosses discussions parce que les naturalistes, tu le sais aussi bien que moi, on n'est pas très majoritaire, y compris dans le monde forestier, et que voilà, il y a tout un tas de gens qui n'ont pas forcément la même appréhension des problèmes. Mais les choses bougent quand même. Il y a déjà des dispositifs ou des textes qui existent. Des codes de bonne pratique sylvicole, par exemple, il y en a eu à l'heure actuelle 3 ou 4 000 signés en Poitou-Charentes. Il doit y avoir 700 plans simples de gestion, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 25 hectares d'un seul tenant, donc qui ont une forêt qui peut être valorisée sur le plan économique, etc. Donc ça fait déjà... quelques milliers de propriétaires qui, d'une manière ou d'une autre, prennent en compte l'environnement s'ils veulent pouvoir conserver le bénéfice d'aide de l'État ou un certain nombre de le bénéfice d'un certain nombre de conseils techniques.
Du simple au double. Ce sera plutôt de 1 à 0. Ce qui est prévu au titre de la LMA, de la loi de modernisation agricole votée cet été, dans son volet forêt, là, c'est que effectivement il y ait une indemnisation de l'État à la condition que la forêt soit réputée non assurable. C'est-à-dire que si la forêt est réputée assurable et que le propriétaire n'a pas assuré, eh ben il n'aura rien. C'est-à-dire qu'il aura zéro. Voilà le principe de ce qui a été voté cet été, si je ne m'abuse.
Oui, je crois que c'est ça.
Oui, moi je voulais savoir au niveau du label, à peu près tous les combien vous faites les contrôles et pour combien de temps exactement on obtient ce label ? Parce qu'il y en a beaucoup maintenant des labels et
oui,
ils ne sont pas toujours
plein.
Forcément fiables.
Alors c'est une autre question, vous êtes très exactement en train d'appuyer là où ça fait mal. Puisque par exemple nous en tant que CRPF on n'a pas capacité à contrôler, on n'a pas le droit. Donc CRPF est un établissement public à caractère administratif, comme on dit, même si on travaille en forêt. Donc on n'a pas le droit de faire des contrôles. Les contrôles, c'est les directions... Alors les ex-DDAF, Direction départementale agriculture de la forêt, devenus, et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, les DDT. Donc pour ceux qui connaissent le DDT, dichlorodiphényl trichloroéthane, un des pires pesticides qu'on a inventé et qui était interdit depuis quelques années, mais qui continue joyeusement à exercer ses effets néfastes un petit peu partout dans l'environnement. Donc les directions départementales des territoires, hein, DDT, sont chargées de faire du contrôle sur le terrain, mais avec pratiquement plus personne pour exercer ces 10 contrôles. Pour simplement vous donner, alors même si je veux, sans commentaire, un fait brut, on doit avoir à l'heure actuelle 72 000 hectares de forêt sur les 370 000 hectares qui sont certifiés PEC en Poitou-Charentes. Ça doit représenter 650 propriétaires, si j'ai bonne mémoire. Et vous avez chaque année 5 propriétaires qui sont visités. Voilà. La certification PEC est une certification faite par région. Vous avez des organismes qui sont habilités à délivrer ces labels-là. On délivre le label PEC pour une région. Ensuite, les propriétaires qui le veulent, parce que c'est volontaire, c'est pas obligatoire, signent le cahier d'engagement, etc., moyennant quoi donc ils peuvent vendre leur bois avec le label PEFC. Mais le contrôle effectif s'exerce sur 5 personnes, sur bientôt 700 chaque année. Voilà. Donc c'est si les gens ne respectent pas les choses, c'est basé sur, je sais pas comment il faut dire, sur la confiance, sur une solidarité de filière. Il faut bien dire les choses comme ça. Mais c'est le gros point faible de PEC. Alors que la certification FSC est délivrée propriété par propriété. Un propriétaire qui veut avoir le label FSC reçoit systématiquement la visite d'un auditeur, d'un organisme de contrôle, qui va aller vérifier de quelle façon la forêt est gérée, de quelle manière ils prennent en compte les milieux naturels, l'environnement, la biodiversité, etc. Le problème, c'est que c'est payant. Et que ça coûte assez cher, et que bon nombre de propriétaires soit n'ont pas les moyens, soit n'ont pas la volonté de payer cette certification-là. La certification PEFC, elle est quasiment gratuite pour les propriétaires. Ils payent 10 euros pour 5 ans, quoi, pour une propriété. Enfin, ça coûte rien, quoi. Donc voilà, c'est le point essentiel de critique du label PEFC par les ONG, c'est ça, c'est le manque de contrôle. Donc c'est une bonne question. Non, non, pas PEFC, ils contrôlent les documents de gestion durable, ils contrôlent les plans simples de gestion, etc. Vous avez raison. Ouais. L'heure avance, les chouettes se réveillent.
Donc, merci encore, Monsieur Persuit. Donc, vous avez apporté quelques exemplaires de votre ouvrage, donc La forêt naturelle. Donc, si certains veulent le feuilleter et éventuellement faire l'acquisition, bien sûr. Voilà. Donc, je vous remercie encore pour vos interventions et la qualité des échanges de la dernière partie de la soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Donc, pour une prochaine conférence sur le thème de la biodiversité et cette fois autour le lundi, donc 22 novembre, autour de la diversité des pollinisateurs et donc la diversité floristique associée. Voilà. Donc à bientôt. Bonne soirée, au revoir.